Vous écoutez
RMC. RMC, 7h-9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 6h58, c'est parti pour Apolline Matin. On est ensemble jusqu'à 9h. Très très bon réveil à tous. Merci d'avoir choisi RMC. La Coupe du Monde, c'est parti ce soir pour la France.
RMC, Coupe du Monde 2026.
France-Sénégal, 21h, vous ne manquerez rien sur RMC, avant-match avec Jérôme Rotten dès 18h, match en intégralité en direct de New York, after-foot jusqu'à 2h du matin. À 7h40, ce matin, nous serons avec l'ancien international français, consultant RMC, Éric Dimeco. La France doit réussir son entrée dans la compétition, la voix du foot sur RMC. Jean-Louis Tour sera aussi avec nous en direct, vous allez vibrer, venez me raconter, venez nous dire ce que vous en attendez, comment vous vous sentez à l'aube de cette très grande journée, 32-16 bien sûr, et puis le WhatsApp 0612 424 424. On va aussi parler politique internationale, l'accord entre l'Iran et les États-Unis annoncé dimanche soir. Mon invité dans le face-à-face, c'est l'ancien commissaire européen, ancien ministre de l'économie, Thierry Breton. Cet accord et puis surtout les desiderata de Donald Trump. Souvenez-vous, Thierry Breton, il n'est toujours pas autorisé à franchir le territoire américain. Il est privé de visa. Alors qui sont les gagnants, qui sont les perdants de cet accord et surtout quelles conséquences pour l'économie française? Rendez-vous donc à 8h30 sur RMC et BFM TV. Puis on continue à jouer et à miser beaucoup, beaucoup d'argent. Venez gagner donc la prime de match. RMC vous fait gagner 30 000 euros plus 500 euros à chaque but marqué pour chaque match de la Coupe du Monde. On est déjà à 53 000 euros. 53 000 euros pour vous. Soyez bien à l'écoute. Il y aura une alerte d'ici 9h. Dans un instant, le journal de 7h. Mais pour l'instant, la météo, et c'est la grande chaleur, mais qui se décale vers l'est.
Exactement. Il va faire un peu moins chaud temporairement dans l'ouest pour aujourd'hui. En revanche, en Auvergne-Rhône-Alpes, il va faire très chaud aujourd'hui. Alors, on attend 34 degrés à Clermont-Ferrand, 33 à Lyon, à Grenoble. Il fera même 35 à Perpignan. On aura 30 à Marseille, 29 à Paris, Bordeaux, 24 à Lille ou La Rochelle. Avec pas mal de grisailles ce matin sur le golfe de Gascogne, les côtes bretonnes et de la Manche. En journée, on aura globalement un soleil assez voilé sur le pays, mais ce sera quand même une impression évidemment de beau temps. Et puis la chaleur qui va se généraliser demain, on va vraiment commencer à rentrer dans la vague de chaleur. Les températures qui vont grimper encore jeudi, le pic est attendu pour dimanche avec des températures en moyenne de 35 degrés sur le pays, mais on pourrait localement atteindre les 40 degrés.
Il est 7h, merci d'avoir choisi RMC pour vous réveiller.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. La réouverture du détroit d'Ormuz, promesse de Donald Trump par Éveil Arabien pour le G7, alors que les prix du gazole fléchissent enfin à la pompe. Les parents qui hésitent à envoyer leurs enfants en colonie de vacances cet été dans le sillage de l'affaire Liana et du périscolaire parisien, les réservations sont en baisse de 5%, c'est une information RMC. Et puis on les a quittés au Qatar, les larmes aux yeux en décembre 2022. On les retrouve 4 ans plus tard aux États-Unis. Les Bleus lancent leur Coupe du Monde ce soir face au Sénégal, 21h sur RMC. On retrouvera Jean-Louis Tour en direct de New York dans ce journal.
Volodymyr Zelensky attendu à Évian au sommet du G7.
Le président ukrainien va tenter d'imposer la question de l'Ukraine ce matin au programme des discussions largement consacrées jusque-là au Moyen-Orient. La signature d'un accord de paix avec l'Iran est prévue vendredi à Genève. Une paix au contour encore bien flou, au cœur d'un échange hier entre Emmanuel Macron et Donald Trump. Et le président américain de se montrer, comme à son habitude, Rachel Sadodine, très optimiste.
Un accord dont le président américain s'est immédiatement félicité à grand renfort de superlatifs.
L'accord que nous avons conclu avec l'Iran va apporter beaucoup de bonheur au monde entier.
Avec deux axes majeurs selon les chefs d'État, la garantie que l'Iran ne se dotera pas de l'arme nucléaire et la réouverture du détroit d'Ormuz qui, d'après Donald Trump, est en cours.
Le détroit est déjà partiellement ouvert. Comme vous le savez, nous menons des opérations de déminage. On a déjà retrouvé certaines mines. Les bateaux sont en train de passer. Vendredi, le détroit sera totalement ouvert.
Et Donald Trump peut d'ajouter « Je ne pense pas que nous aurons besoin d'aide pour garantir cette réouverture ». Manière peu subtile de rejeter la proposition française, d'ailleurs réitérée hier soir par Emmanuel Macron, de déployer le porte-avions Charles de Gaulle dans la zone. Mais alors, péage ou pas péage dans le détroit d'Ormuz? Le locataire de la Maison-Blanche évoque un passage entièrement gratuit, mais les autorités iraniennes, elles, laissent planer le doute.
Rachel Sadodine, envoyée spéciale à Evian pour RMC. La lutte n'est pas terminée, dit Benjamin Netanyahou, qui appelle à la vigilance en réponse à cet accord pas forcément bien accueilli du côté d'Israël. À l'inverse, des marchés baissent les cours du pétrole et à la pompe aussi, un litre de gazole sous les 2 €. C'est une première depuis le mois de mars et un soulagement pour ces automobilistes rencontrés par notre correspondant Martin Lange à Rennes.
Quand Marion a vu les prix dans cette station, elle s'est immédiatement arrêtée.
Je suis qu'à demi-plat en plus, mais on est un peu incertain en ce moment, donc vaut mieux en profiter et puis y aller dès qu'on voit que les prix baissent un petit peu. Quoi.
Malgré l'accord de paix qui se profile entre l'Iran et les États-Unis, la majorité des automobilistes estiment que les prix baissent trop lentement. Benoît est artisan.
C'est que des accords, hein, ça va, ça vient, c'est comme la queue du chien, comme on dit. Hein. Aujourd'hui, ça va pas assez vite.
Marvin, lui, reste optimiste, surtout dans l'optique de l'été.
C'est mieux que rien, une petite baisse de 10 centimes, on prend. Avant les vacances, ça fait toujours plaisir.
Notamment pour ceux qui ont prévu de longs trajet, c'est le cas d'Amazir. Cet agent de sécurité va passer un mois en Algérie.
Bien sûr, c'est une bonne nouvelle. Je vais jusqu'à 7. Après, je prends le bateau pour 100 mois au porte-monnaie.
Gérant d'une station-service à Saint-Aubin-du-Cormier, Philippe confirme cette tendance à la baisse.
Depuis début juin, il a baissé à peu près en achat de 11 centimes par litre.
Surtout, ces deux pompes ne sont plus prises d'assaut.
C'est un soulagement parce qu'on a du carburant maintenant tout le temps. On n'est plus en rupture. C'est beaucoup plus simple pour nous et beaucoup plus serein.
Et il espère que la signature d'un accord de paix entérinera une baisse durable des prix à la pompe.
Et le sujet des carburants qui sera sur la table d'une réunion avec les distributeurs reçus ce matin à Bercy. Ils étaient encore plusieurs milliers, hier comme la semaine dernière, devant les tribunaux du pays pour réclamer une loi intégrale contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Manifestation dans la lignée de l'affaire Liana, dans le sillage aussi du scandale du périscolaire parisien qui a réveillé les consciences au point que certains parents réfléchissent à revoir leur plan pour les vacances d'été, hésitant à envoyer leurs enfants en colonie. Louis Salé nous rejoint. Vous nous révélez ce matin ce chiffre RMC. Louise, 5%, c'est la baisse du nombre d'inscrits par rapport à l'an dernier.
Oui, alors selon les organisateurs de colonies de vacances qui nous ont confié ces chiffres, les inscriptions baissent surtout pour des raisons économiques, à cause du pouvoir d'achat des familles en berne et de la réduction des aides de l'État qui finançait certains séjours. Mais les mairies qui organisent aussi des colonies reçoivent de nombreux appels de parents inquiets. Certains renoncent à envoyer leurs enfants quand d'autres s'interrogent sur la façon dont les jeunes sont encadrés. Lucas Laubert a interrogé des pères de famille à Paris pour RMC.
Si je peux éviter, j'éviterai. C'est compliqué de savoir à qui on a affaire. Ça nous fait peur de plus en plus, vous voyez.
Je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément habilités ou en tout cas qui n'ont pas les façons de faire avec des petits-enfants.
Forcément, une colonie, dans ce contexte, elle doit justifier que les accidents ne vont pas arriver. C'est important de se dire qu'il y a toujours plusieurs adultes autour des enfants, plutôt des femmes, on espère.
Les organisateurs rassurent les parents en leur expliquant que le casier judiciaire de chaque animateur est examiné. Une plateforme de l'État permet de vérifier si cette personne n'a pas fait l'objet de signalements dans d'autres structures. Les colonies de vacances, enfin, sont régulièrement inspectées. Le nombre minimum d'encadrants qui disposent d'un brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur est scruté de près. Un brevet qui contient d'ailleurs depuis peu un module obligatoire sur les violences sexuelles.
RMC 7h06 et c'est un jour particulier qui commence.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Et vous vous réveillez peut-être avec le sourire aux lèvres. Ce matin, une douce excitation qui commence à monter jusqu'à 21h ce soir. Et le coup d'envoi de France-Sénégal, début de la Coupe du Monde. Pour nos bleus, l'impatience grandit avec l'espoir d'une victoire tricolore.
Bah ouais, j'ai hâte là. J'ai regardé un peu les autres matchs et tout. Bah forcément c'est sympa, mais on attend que la France elle joue quoi, c'est pas la même saveur.
On va mettre des maillots de foot, je sens qu'on va gagner et tout avec nos beaux joueurs.
Bah toute la semaine, là depuis le début de la Coupe du Monde, ouais j'attends ça moi, donc très impatient ouais.
J'espère qu'il va y avoir de l'ambiance et qu'on va marquer plein de buts. Hein. Ramener la coupe à les maisons, allez les bleus, allez.
Et avant de ramener la coupe à la maison, il faut d'abord gagner ce premier match ce soir à New York. Rendez-vous 21h sur RMC avec Jean-Louis Tour au commentaire. On vous retrouve Jean-Louis. Ce matin en direct de New York, la recette elle est simple. Pour gagner, il faut marquer et les Bleus ne manquent pas d'armes offensives, Jean-Louis.
Oui, et ce sera la grande curiosité. La fameuse formule offensive de Deschamps va-t-elle fonctionner dans un gros match? Car même si Deschamps joue ainsi depuis un peu plus d'un an, il n'y a pas eu un adversaire comme le Sénégal, champion d'Afrique, sur une grande compétition qui s'est dressée face au fameux quatuor, les quatre attaquants qui ont de sacrées références, Kylian Mbappé, champion du monde, les vainqueurs de Ligue des champions parisiens, Désiré Doué et Ousmane Dembélé, et le meilleur joueur de Bundesliga au Bayern Munich, Michael Olise. Cette compo qui a affiché quelques difficultés lors de la défaite contre la Côte d'Ivoire, puis lors de la victoire face à l'Irlande du Nord en préparation. Depuis, le milieu de terrain Aurélien Tchouaméni l'a expliqué, les Bleus ont amélioré, corrigé ce qui n'avait pas fonctionné sur ces rencontres. La question sera donc celle du repli défensif des attaquants et ce fameux équilibre qui a coûté un but sur les 5 derniers matchs des Bleus. Des erreurs qui pourraient coûter cher ce soir face au Sénégal.
Jean-Louis Tour, en direct de New York ce matin, on vous retrouvera ce soir dès 20h pour l'intégrale Coupe du Monde sur RMC, suivi du match France-Sénégal, je vous rappelle l'horaire, 21h. L'after prendra le relais jusqu'à 5h du matin avec un beau programme. D'abord, l'autre match de ce groupe I, le groupe de la France, entre l'Irak et la Norvège, avant l'entrée en lice des champions du monde en titre, l'Argentine opposée à l'Algérie, la nuit prochaine, 3h du matin. Et puis, notez que cette nuit, l'Iran a fait match nul face à la Nouvelle-Zélande, 2-2, pas de vainqueur non plus entre le Cap-Vert et l'Espagne, favori de la compétition, 0-0, match nul aussi pour la Belgique face à l'Égypte. Notez enfin que Hervé Renard succède à Sabri Lamouchi. Il a été limogé de son poste de sélectionneur de la Tunisie, battu par la Suède dimanche 5-1.
C'était le journal de Thibaut Texer. Il est 7h08 sur RMC. En France, on est tous égaux devant la loi. Oui, mais si c'est pas la même loi, la Corse doit-elle bénéficier d'un statut d'autonomie avec des lois et des règles spécifiques? Les députés en débattent à partir d'aujourd'hui. Bonjour Gilles Simonet. Gilles Simeoni, je ne sais jamais s'il faut que je le prononce en corse. Vous vous dites quoi?
Au moment de l'autonomie, vous pouvez...
Voilà, exactement, c'est aujourd'hui, alors peut-être qu'on changera demain. Gilles Simeoni encore, donc merci d'être dans ce studio. Vous êtes le maire de Bastia, vous êtes l'homme fort de Corse. Vous avez présidé pendant 10 ans le conseil exécutif de Corse. Votre parti pris ce matin, c'est évidemment que la spécificité de la Corse justifie à vos yeux un statut d'autonomie. Et vous nous expliquez pourquoi dans un instant, en répondant à mes questions. Il est 7h04.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h12 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Bonjour Gilles Simeoni. Merci d'être avec nous dans ce studio en métropole, j'allais dire. Vous êtes le maire de Bastia, vous êtes aussi vraiment celui qu'on appelle l'homme fort de Corse. Vous avez dirigé pendant plus de 10 ans le conseil exécutif de Corse. Ce projet qui sera donc débattu aujourd'hui par les députés. Projet pour une Corse autonome au sein de la République. Est-ce que c'est pas surtout pour une Corse de plus en plus autonome et de moins en moins au sein de la République?
Non, je pense que l'autonomie, c'est une forme d'appartenance à la République. Pour l'instant, nous ne sommes pas autonomes et nous aspirons à le devenir.
Avouez que vous jouez un petit peu sur les mots quand même. Oh, l'autonomie, c'est pour être au sein de la République, non?
L'autonomie, c'est une capacité à produire des normes. C'est un statut ou un régime qui existe dans beaucoup de régions européennes et notamment dans toutes les îles de la Méditerranée et qui fonctionne plutôt bien. Les Baléares, les Açores, la Sardaigne sont autonomes depuis des décennies. Elles produisent de la norme adaptée à des problématiques qui notamment sont aggravées ou suscitées par l'insularité en matière de transport, en matière d'aménagement du territoire, en matière de langue et de culture. Ça se fait dans un cadre apaisé avec l'État et ça a également permis un développement économique et social soutenu.
Ça se fait effectivement de manière apaisée avec l'État, clairement depuis désormais quelques années, on le sent bien. Aller vers l'autonomie semble quelque chose qui vous est promis désormais. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, vous dites, on voudrait pouvoir produire nos propres normes. Mais de quoi voulez-vous vous débarrasser?
Alors, il ne s'agit pas de se débarrasser, il s'agit d'essayer d'adapter la règle à des besoins spécifiques.
J'ai bien compris, en théorie.
Je vous prends un exemple.
Mais ça veut dire quoi concrètement? C'est-à-dire que vous dites, voilà, moi je veux, nous voulons désormais pouvoir avoir nos propres lois, nos propres règles, avec plus d'autonomie. Mais concrètement, vous en ferez quoi?
Alors, je vous prends un exemple concret qui empoisonne, par exemple, la vie des maires depuis des années. Aujourd'hui, nous avons des lois nationales qui sont prises par rapport à des problématiques qui se posent à l'échelle du pays. Par exemple, en matière d'urbanisme, la loi littorale et la loi montagne. La jurisprudence et la règle actuelle font que lorsque vous avez un cumul de lois, c'est la loi la plus sévère qui s'applique. En Corse, nous avons plusieurs dizaines de communes qui sont à la fois des communes de l'intérieur, mais qui ont une façade littorale. On applique donc la loi littorale, qui est totalement inadaptée pour les communes de l'intérieur, ce qui est un frein au développement, lorsque notamment vous voulez faire un permis de construire pour permettre à des jeunes de s'installer. Donc ça fait des années qu'on demande au législateur de modifier la loi. Il a autre chose à faire. Si nous avions la capacité d'aménager ce texte, nous le ferions, et nous le ferions y compris sous le contrôle du juge, ce qui permet de garantir une cohérence d'ensemble à l'échelle nationale.
Mais vous comprenez bien que la formule de la Constitution française, c'est tous égaux devant la loi. Mais ça n'est plus la même chose
si la loi est différente?
Alors, l'égalité, c'est pas un concept figé. L'égalité, elle commande notamment de traiter de façon différente des situations différentes. Et d'ores et déjà aujourd'hui, et d'ailleurs depuis des décennies, il y a des situations qui sont très différentes, de façon sectorielle, par exemple, si on prend le droit mosellan, ou par exemple en Polynésie, où depuis plus de 20 ans, il y a un statut d'autonomie qui permet, par exemple, à l'Assemblée territoriale polynésienne, eh bien, de prendre des règles spécifiques qui ont valeur législative et qui peuvent même organiser un accueil privilégié aux résidents du territoire, par exemple en matière foncière ou en matière à l'emploi, et personne n'a trouvé à y redire.
Certains constitutionnalistes, Benjamin Morel qu'on connaît bien ici, dénoncent cette réforme. Il estime que ça va consacrer le communautarisme qui rompt l'égalité de tous face à la loi et l'idée qu'on ne soit qu'un seul peuple. Qu'est-ce que vous lui répondez ?
Je réponds que tout ce qui s'est passé en Corse depuis des décennies montre bien, premièrement, que notre démarche est aux antipodes du communautarisme. C'est une démarche ouverte, rayonnante, en aucun cas un basculement vers le droit du sang ou vers une conception
Ça, c'est important quand vous dites en aucun moment il y aura cette histoire du droit du sang, parce que la question, c'est aussi le rapport à la terre, le rapport à la communauté. Est-ce que de ce point de vue-là, vous estimez qu'il faut faire évoluer aussi les choses ?
Oui, nous estimons qu'il faut faire évoluer les choses. Il y a un enjeu à la fois historique et symbolique. Nous considérons, et nous ne sommes pas les seuls à considérer, les Corses à l'unanimité, mais également les constitutionnalistes, les grands philosophes de l'Europe du XVIIIe siècle, des grands hommes politiques de Gaulle jusqu'à Mitterrand, ont tous considéré que le peuple corse existe. La difficulté, c'est comment on le reconnaît.
Comment le définit, à vos yeux, le peuple corse ? Il faut combien d'ascendants ?
Non, mais justement, nous n'avons pas une conception qui repose uniquement sur l'ascendance ou ce lieu de naissance. Pour nous, c'est essentiellement une communauté dynamique. Nous avons appelé la communauté de destin, c'est-à-dire que au-delà de la naissance, de la langue, du rapport à la terre et à l'histoire, c'est une volonté de se sentir partie prenante du présent et de l'avenir.
Mais ça veut dire que si je viens chez vous demain et que je dis que je me sens corse, est-ce que vous me l'octroierez ?
C'est pas moi qui vais décider.
Ou est-ce que vous me demanderez mes quartiers de naissance ?
Alors non, pas du tout, non. Vous savez, ce sont des choses difficiles. Par exemple, comment et pourquoi est-on...
Mais c'est une question qui traverse la société française globalement, mais c'est vrai qu'en faisant une spécificité...
De façon globale, mais c'est pour ça que je dis que la question qui est posée aujourd'hui au Parlement et les enjeux dont il aura à débattre concernent la Corse, mais renvoie aussi la société française, d'abord à ses inquiétudes, mais aussi sans doute à sa volonté d'intégrer les enjeux du 21e siècle. Je veux dire, il y a cette aspiration en Corse. La question fondamentale, elle est partagée par une très large majorité de Corses. Le texte qui va être débattu a été voté quasiment à l'unanimité, notamment à l'unanimité sur la question de l'existence d'un peuple, d'une langue et d'un rapport singulier à la terre. Est-ce que la République est capable de prendre en compte cette aspiration et comment on fait pour le faire ? Et je crois que si elle le fait, non seulement elle ne s'affaiblira pas, mais elle se renforcera.
Avec une question aussi, c'est le mot menace que vous avez utilisé en disant ce sera lourd de conséquences perturbantes. Comment est-ce que vous...
Non,
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Je pense que personne ne peut considérer, ni dans ma trajectoire politique depuis des décennies, ni dans ce que je dis, qu'il y a un quelconque recours à la menace ou au chantage à la violence. J'ai dressé un constat objectif. D'abord, c'est que ce rendez-vous est attendu.
Ce rendez-vous, mais vous êtes plutôt serein sur le résultat, si je comprends bien.
Je pense qu'on a effectivement une obligation de résultat, parce que d'abord, il y a la prise en compte du fait démocratique qui est essentielle. Et puis, il faut aussi...
Les aspirations
du peuple corse. Et il faut comprendre aussi que si on ne répond pas, au moins en ouvrant la possibilité du débat, à mon avis, en votant cette révision constitutionnelle, en discutant derrière de ce qui pourra être fait, mais également des contrôles et des limites qui sont d'ores et déjà prévus par le texte, eh bien, effectivement, il va y avoir une forme de désillusion. Et puis surtout, je vous le redis, nous, depuis 10 ans, nous avons été en situation de responsabilité. Nous avons voté une délibération qui organisait ou qui proposait un statut d'autonomie beaucoup plus ambitieux que celui qui est envisagé aujourd'hui. Nous avons accepté, eh bien, de revoir à la baisse nos revendications pour construire un compromis très large. Ce compromis, il est soumis aujourd'hui au Parlement. Il faut aussi que la démocratie fonctionne pour que d'autres, notamment les jeunes, eh bien, ne soient pas désespérés face à une situation économique, sociale, sociétale en France qui est très inquiétante.
Il fallait entendre le lourd de conséquences perturbantes. Merci beaucoup d'être venu défendre ce matin donc votre volonté d'autonomie. Gilles Simeoni, vous êtes donc le maire de Bastia et l'ancien directeur du conseil exécutif de Corse. Il est 7h20 sur RMC. C'est l'heure de remonter le temps. Hier, tiens, ils nous racontaient l'histoire de la Corse, Arthur Chevalier. Mais ce matin, vous nous racontez le château de Versailles.
Et oui, Emmanuel Macron invite Donald Trump dans le château des rois de France. C'est ce soir. Et le premier président américain à avoir eu droit à un dîner à Versailles à Pauline, c'était Kennedy.
Vous nous le racontez dans un instant. Il y a aussi Arnaud Demanche qui arrive. Il est 7h21.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h22 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. On va remonter le temps comme chaque jour avec Arthur Chevalier. Arthur, Donald Trump est arrivé en France pour le G7 à Évian et demain, il sera invité à dîner par Emmanuel Macron, un dîner officiel au château de Versailles.
Oui, et Emmanuel Macron a précisé hier que ce dîner sera, je cite, « notre moment de célébration de ces 250 ans d'indépendance ». C'est évidemment une référence aux 250 ans de l'indépendance américaine qu'on célèbre cette année. Mais c'est aussi une façon de rappeler aux Américains que les armées françaises avaient joué un grand rôle à leur côté pendant leur guerre d'indépendance. Donc en fait, qu'ils nous doivent un petit peu quelque chose. Et ce dîner promet d'être spectaculaire, Apolline, puisqu'au programme, ça sera visite du château, dîner et feu d'artifice dans les jardins illuminés.
Cette soirée, elle vous fait penser à celle d'un autre président américain.
Et oui, et pas n'importe quel président américain, c'était celle du président John Fitzgerald Kennedy en juin 1961. Kennedy venait d'être élu. Et c'était, mais alors, la coqueluche du monde entier à l'époque. Hein, Kennedy était jeune, beau, moderne, cool. C'était Barack Obama avant l'heure. En plus, il parlait français. Sa femme aussi parlait français. C'était une icône du glamour et du chic. Je parle bien sûr de l'éternel Jackie Kennedy. Pour toutes ces raisons, le général de Gaulle, qui était notre président, invite donc Kennedy pour quelques jours. Et le clou de sa visite, eh bien, c'était un dîner d'exception au château de Versailles.
Un château où rien n'était prévu pour ce genre d'événement.
Et oui, puisque à l'époque, on ne donnait quasiment aucune réception à Versailles et surtout pas de dîner d'État. Donc le château n'était pas en état, tout simplement. Il a fallu tout refaire, ou presque, pour l'occasion. On installe l'éclairage électrique dans la galerie des glaces. Ça n'existait pas. Le dîner aura lieu dans cette galerie des glaces. On transforme la chambre de Louis XIV en entrepôt où on met toute la vaisselle pour le dîner. Et bien sûr, Apolline, qui dit dîner, dit cuisine, sauf que c'est un vieux château, donc il n'y a pas de cuisine. Donc on fait carrément aménager une cuisine ouverte dans une des cours. Et forcément, il faut aussi des toilettes modernes, il n'y en avait pas non plus. Donc on met des toilettes d'appoint, des sortes de toilettes de chantier, dans les salons dorés.
Extraordinaire. Combien de personnes ont assisté à ce dîner?
Beaucoup. 174 pour être exact. Et forcément, la table du dîner était, mais alors, gigantesque. Hein, 67 mètres de long et tout était calculé au millimètre. Les places étaient réparties en fonction des embrasures des fenêtres. Pourquoi? Eh bien, pour que tout le monde puisse avoir une vue sur les jardins. De Gaulle et Kennedy, eux, étaient au centre de la table, côte à côte, en majesté, sans personne face à eux. Les verres étaient en cristal de baccarat, la vaisselle, c'était de la porcelaine de Sèvres. Et la nappe était brodée avec du fil d'or. C'était plus qu'un dîner, Apolline. C'était une mise en scène du pouvoir et du raffinement à la française.
Ce dîner d'État, c'est le premier d'une longue série.
Exactement. Et Kennedy va adorer ce dîner à tel point que quand il
rentre... Il en redemande.
Il en redemande, exactement. Et quand il rentre, il encourage les Américains à faire des dons au château de Versailles. Rien que pour ça, ça a été très efficace. Quant à De Gaulle, lui aussi a été convaincu que ces réceptions étaient donc très utiles pour la diplomatie française. Il en fera beaucoup d'autres pour d'autres chefs d'État par la suite. Ses successeurs aussi. À noter qu'Emmanuel Macron est le président de la Ve République qui a le plus utilisé Versailles pour des réceptions officielles.
Merci Arthur. Arnaud Demanche nous rejoint.
RMC.
Demanche pirate, le face-à-face.
Salut Arnaud. Oh. À 8h30 tout à l'heure dans le face-à-face, je reçois l'ancien commissaire européen et ancien ministre de l'économie, Thierry Breton.
Que la paix soit sur le monde pour les
Et oui, parce que ce matin, c'est la paix, Apolline. Oui, alors j'ai mis cette chanson et aussi... parce qu'elle a été chantée par la maman de Thierry Breton. Non, c'est pas vrai, c'est pas sa mère, enfin, Apolline, c'est sa meuf. Alors, non, mais c'est la paix entre les États-Unis et l'Iran. La guerre s'arrête, a pu, a fini la guerre. Quelle histoire c'était,
oui,
hein,
c'est ce fou,
truc.
Hein.
C'est fini, hein, c'est maintenant. Le détroit, il est ouvert maintenant. Avant, il était fermé. Maintenant, il va rouvrir. Alors, encore avant, il était ouvert, oui. Mais après, il a fermé. C'est les détroits, ça. On connaît les détroits.
Oui. Hein.
C'est ouvert, c'est fermé. C'est comme la poste. Bref, tout le monde se félicite de l'accord entre les États-Unis et l'Iran. Enfin, tout le monde. Non, à mon avis, au Groenland et à Cuba, ils se disent « Merde, il n'y a plus l'Iran pour l'occuper, ça va être pour nous, Trump. » Et c'est un accord, c'est signé électroniquement. Parce que maintenant, on signe les traités de paix comme on signe sa déclaration URSAF. C'est
voilà, clic.
L'historien maison Arthur Chevalier confirmera « C'était pas comme ça en 1918 pour l'armistice. On n'a pas eu. »
Ce 11 novembre, dans un wagon de la forêt de Compiègne, le maréchal Foch et Matthias Erzberger, le représentant du gouvernement allemand, signèrent l'armistice.
Voilà Mathias, la France a signé. Normalement, vous avez reçu un WhatsApp avec un code de confirmation de DocuSign.
Voilà. Arthur vous confirmera que j'imite hyper bien le maréchal Foch.
Ouais,
franchement,
bien fait.
C'est ma meilleure. J'ai bossé Foch, Clémenceau et André Maginot, au cas où.
Ma ligne est indestructible.
Ça, c'était Maginot. Mais c'est
bien sûr, on l'a reconnu tout de suite.
Non, mais
tout
je peux faire reconnu. Des congrès d'historiens avec ça.
Elle est pour Arthur, cette blague.
Ah, non, ouais. elle est toute la chronique est pour lui, vous allez voir.
Il est heureux.
Alors, Israël a déclaré à propos du traité de paix.
Oui.
On n'est pas concerné, on continue. J'ai l'impression que Netanyahou, il est un petit peu accro à la guerre. Alors, pour qu'il arrête, je propose l'hypnose. Comme avec la clope. On le met devant un hypnotiseur qui est là.
Benjamin, écoute ma voix. Concentre-toi sur ma voix et enlève ton pantalon.
Ah non, c'était Gérard Miller. C'est le mauvais qu'on a pris.
C'est pas le bon.
Alors, Arthur Chevalier vous le disait, Emmanuel Macron va accueillir demain Donald Trump à Versailles. Trump qui a fêté son anniversaire avec des combats de MMA et des acrobaties à motocross dans son jardin. Faudra que Macron s'adapte, hein.
Tiens Donald, j'ai un cadeau, bon anniversaire. C'est un t-shirt de Johnny avec un loup qui hurle devant une pleine lune. Oh, j'adore, c'est la classe.
Et puis il va lui offrir des Santiago. Et dans la cour de Versailles, il y aura un barbecue géant. Macron, il aura un tablier, le roi de la saucisse. Et il y aura un concours de Miss T-shirt mouillé. Et un blind test festif et franchouillard avec Philippe Corti. Allez, tout le monde joue. Qui c'est qu'a chanté?
C'est la merguez.
C'est les musclés.
C'est les musclés. Allez, une autre.
Alice, ça glisse.
Francky Vincent.
Mais oui, voilà. Vous auriez pu être invité à l'anniversaire de Donald Trump.
C'est les invités ou pas?
Vous avez le niveau. Allez, rendez-vous avec Thierry Breton à 8h30.
Allez, à tout de suite pour la météo et le journal. Il est 7h28 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Victor Prochet. Bonjour Victor.
Bonjour Apolline et bonjour à tous. Reprise des traversées de pétroliers dans le détroit d'Ormuz et donc tous les yeux tournés vers la pompe. Les prix vont-ils chuter aussi vite qu'ils ont flambé? Réponse dans un instant. Un ministre ne devrait pas dire ça. Philippe Tabarot, accusé par Éric Ciotti de l'avoir menacé, je cite, de lui envoyer des Géorgiens pour le faire disparaître. Et la folle ambiance à New York, sur Times Square, où supporters français et sénégalais ont fait la fête ensemble avant leur entrée en lice à 21h au Mondial de foot. RMC est sur place.
Le gouvernement met la pression sur les distributeurs de carburant.
Réunion à Bercy, 11h, parce que l'exécutif compte bien voir l'accord Iran-États-Unis et la réouverture du détroit d'Ormuz se concrétiser à la pompe. Sébastien Lecornu répète que les prix doivent descendre aussi rapidement qu'ils sont montés. Victor Jonin, à quoi faut-il s'attendre en faisant le plein ?
Les prix dans les stations-service vont s'ajuster progressivement au fur et à mesure de leur réapprovisionnement. Attention, la situation reste volatile. Tout regain de tension ferait repartir les cours à la hausse. Mais à quelques semaines de l'été et des grands départs, l'économiste Thierry Brault est optimiste.
Si le prix du Brent reste au niveau où il est, aux alentours de $80 par baril, eh bien, on aurait un prix à la pompe qui, dans 15 jours, serait autour de 1,80€. Le litre
de gasoil et d'essence a s'élevé à 1,70€ avant la guerre. Mais pour revenir à cette situation, il faudra être patient, avertit Salomé Ruel, enseignante en logistique, car la production de pétrole au Moyen-Orient a été durablement endommagée.
On a quand même des installations pétrolières qui ont été touchées massivement sur la zone, qui doivent se reconstruire. Et ça peut prendre, selon les différentes installations, des mois, voire des années. Se dire qu'on va voir les prix baisser, oui. Revenir par un coup de baguette magique au prix d'avant-guerre, là, tout de suite, maintenant, non.
La suite dépendra aussi du contenu de l'accord. L'Iran sera-t-il parvenu à instaurer un péage, une mesure qui serait synonyme d'incertitude sur les marchés et donc de cours plus élevés.
Et très épié également, c'est la réaction d'Israël. Son premier ministre a promis hier que son armée restera aussi longtemps que nécessaire à Gaza, en Syrie et au Liban. En France, la colère ne retombe pas après la mort de Liana. Plus d'un millier de personnes ont manifesté hier à Paris devant le ministère de l'Intérieur, mais aussi ailleurs en région devant des tribunaux. Elle revendique toujours une loi intégrale sur les violences sexistes et sexuelles. Le premier ministre a reçu les parlementaires qui portent ce projet. Sébastien Lecornu, qui doit par ailleurs gérer des accusations contre son ministre des Transports. Menace d'agression commanditée qu'aurait susurré Philippe Tabarot à l'oreille d'Éric Ciotti en plein déplacement officiel dimanche sur fond de rivalité locale entre les deux hommes avant les élections sénatoriales. Le maire de Nice dénonce tout ça dans une lettre envoyée à Matignon, Thomas Becker.
Oui, alors qu'Éric Ciotti, maire de Nice, accueille la délégation présidentielle, Philippe Tabarot, ministre LR des Transports, aurait traité l'ancien président des Républicains de nabo. Selon le Canard enchaîné, le ministre se serait ensuite approché d'Éric Ciotti et lui aurait soufflé à l'oreille, je cite, « Je vais te faire disparaître en t'envoyant des Géorgiens ». Cette phrase apparaît dans un signalement adressé au procureur selon les équipes d'Éric Ciotti. Sollicité hier soir, le cabinet du ministre Tabarot n'a pas répondu. Sébastien Lecornu a reçu hier soir un courrier d'Éric Ciotti signalant les faits. Selon les informations d'RMC, le Premier ministre a bien pris connaissance de la lettre et a découvert l'incident supposé hier soir. Pour le moment, aucune décision n'a été prise par le Premier ministre.
Thomas Becker du service politique de RMC. C'est une bascule historique. Pour la première fois à l'échelle mondiale, les réseaux sociaux deviennent la première source d'information passant devant les médias dits traditionnels. On vous détaille cette étude publiée ce matin dans le journal de 8h. Allez, direction les États-Unis.
Radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Et plus précisément, Los Angeles. Vous êtes en direct avec nous, Nicolas Pelletier. Vous avez suivi cette nuit l'entrée en lice de l'Iran, forcément très scrutée vu le contexte international. Match nul de partout contre la Nouvelle-Zélande, ça c'est sur le terrain, mais surtout en dehors, ce coup de gueule ce matin du sélectionneur iranien.
Nous sommes l'équipe la plus maltraitée de la Coupe du Monde. Voilà le coup de gueule d'Amir Galenoï, le sélectionneur iranien, il y a quelques minutes devant les médias, juste après son match nul contre la Nouvelle-Zélande. Il fait ici référence à tous les problèmes logistiques et d'organisation de l'équipe depuis son arrivée dans cette Coupe du Monde. Un groupe iranien qui a reçu à la fin du match la visite du président de la FIFA, Gianni Infantino, dans le vestiaire. Vous êtes en train d'écrire l'histoire et le monde entier vous observe, a lâché le puissant patron de la fédération. Les joueurs ont ensuite adressé quelques critiques sur l'organisation de leur préparation devant le président de la FIFA et notamment sur le manque d'équité. Un groupe iranien qui ne traîne pas sur le sol américain. Les joueurs sont actuellement dans le bus direction l'aéroport pour rentrer au Mexique dans les prochaines minutes avant de revenir à Los Angeles dimanche pour y affronter la Belgique. Sur l'enchaînement des déplacements, aucune autre équipe se retrouve dans cette situation.
Nicolas Pelletier en direct de Los Angeles pour RMC, radio officielle du Mondial. Mondial qui vire déjà au fiasco pour la Tunisie après la gifle 5-1 reçue par la Suède. Son sélectionneur Sabri Lamouchi a officiellement été limogé ce matin et remplacé par un ancien de Ligue 1, Hervé Renard. Cette nuit, match nul 1 partout entre l'Arabie Saoudite et l'Uruguay et place désormais à la tant attendue entrée en lice de nos bleus France-Sénégal. Coup d'envoi 21h à suivre évidemment sur RMC. Mais le match, il a déjà commencé dans les rues de New York hier, Valentin Jamin.
Oui, vers 20h, Times Square, cette mythique place entourée d'écrans géants ressemble à une tribune bleue. Des centaines de Français avec maillot, écharpe chante, Eric profite.
C'est magnifique, il y a une ambiance de malade. Hein. On nous entend, on est là, on fait du bruit. C'est important, bien sûr, on se doit d'être là, on est en force. Hein. Ça va être un très beau match. Voilà, je dis pas qu'on va le gagner facilement, mais on va le gagner.
Depuis quelques jours, les maillots bleus affluent en centre-ville. David et son fils Charles sont arrivés hier matin.
Il y a une ambiance de dingue et on est content de vivre ça, quoi.
Contre le Sénégal, on sait que ça va être un super match. On sait qu'ils ont un bon public aussi, mais comme tu peux le voir ici, il y a aussi du niveau.
On doit gagner.
Puis des Sénégalais arrivent à leur tour et Yaya chambre.
On a déjà préparé nos oignons pour manger le coq. C'est vite fait, on va dégager la France. On est venu pour récupérer la coupe et amener au Sénégal.
Les Sénégalais venant de l'étranger n'ont pas eu de visa, mais la diaspora est très grande ici et beaucoup portent fièrement leurs couleurs, comme Aziz et Moussa.
On va taper fort quand même. On est des champions. Préparez les 3-0.
Oui, défaite de la France. On a une équipe qui peut gagner toutes les coupes. Hein.
Ils espèrent donc voir leur équipe battre la France comme en 2002.
Et vous ne manquerez rien, évidemment, sur RMC. 18h, 5h du matin, vous connaissez les horaires sur RMC, c'est 100% Coupe du Monde.
Et puis le quintet, c'est à Nantes aujourd'hui.
Départ 18h40, le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Son favori, c'est le numéro 3, Grande Passenne. Son outsider, le numéro 2, Grécian Star, le 3 et le 2.
C'était le journal de Victor Pourchet, il est 7h38 et c'est l'heure. Mais oui, vous voyez tous ces zéros là qui... qui défile. C'est l'heure de jouer et de gagner votre prime de match sur RMC. On a commencé, souvenez-vous, avec une cagnotte de 30 000 euros. Et on rajoute 500 euros à chaque but marqué pendant la Coupe du Monde. Avec les matchs de cette nuit, on est à 53 000 euros. 53 000 euros dans la cagnotte. Retenez bien le montant de cette prime. À tout moment, on peut vous appeler. Et si quand on vous appelle, vous donnez le montant exact de la prime, vous repartez avec 53 000 euros. Pour vous inscrire, vous envoyez tout de suite but au 7-32-16. But au 7-32-16. Vous avez 10 minutes pour vous inscrire. Bonne chance à tous.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Ça commence ce soir, la Coupe du Monde pour la France à New York.
RMC,
radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Bonjour Éric Dimeco, vous êtes notre fil rouge tout au long de la compétition, consultant RMC bien sûr, ancien international, France-Sénégal. Ce soir, 21h, match à suivre en intégralité sur RMC, en direct de New York, où le match a lieu et où vous vous trouvez, Jean-Louis Tour. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour Apolline, bonjour Éric, bonjour tout le monde.
Jean-Louis, la voix du foot bien sûr sur RMC, vous commentez le match ce soir. Quelle est l'ambiance déjà à New York? On entendait la Marseillaise qui avait résonné hier soir à Times Square, c'est assez inouï quand même.
Oui, on l'a entendu dans le reportage de Valentin Jamin, il y avait du monde à Times Square côté français, effectivement. On attend 5000 Français pour remplir le stade du MetLife de New Jersey. Alors attention, parce qu'il y aura aussi beaucoup de Sénégalais. Il y a une grosse communauté à New York de Sénégalais. On estime à 10 à 20 000 Sénégalais qui vivent à New York. Donc on peut imaginer qu'il y aura du monde dans le stade, même si aucun Sénégalais n'a été autorisé à se déplacer aux États-Unis. Il y a eu refus de visa, ça fait partie des pays qui sont sur la liste des États-Unis. Donc ambiance qui va être partagée. En tout cas, les supporters français seront là et les joueurs sont impatients de débuter une Coupe du Monde, évidemment.
Il fait très très chaud.
Non, je dirais pas très très chaud. Il fera 25 degrés au moment du coup d'envoi. Il y a un petit peu de vent. Il y en a eu aujourd'hui, il y en aura un petit peu demain aussi, donc ce sera largement supportable.
Largement supportable. Vous restez avec nous, Jean-Louis, Eric. Les Bleus favoris face au Sénégal?
Bonjour à tous. Oui, la France est favorite de la compétition. On dit toujours l'Espagne, l'Angleterre, le Portugal. On a tous à peu près les mêmes équipes en tête. Sauf que pour ce premier match, on tombe sur un os quand même, parce que champion d'Afrique. Alors il y a débat, mais pour le moment ils ont fait appel, ils sont toujours champions d'Afrique et surtout avec des joueurs qu'on connaît bien, des joueurs qui pour certains ont été formés en France, qui jouent dans des grands clubs, avec le leader Sadio Mané qui a montré justement lors de cette dernière Coupe d'Afrique que il tirait son équipe vers le haut. Donc moi je suis plutôt inquiet parce que c'est jamais évident de rentrer dans une compétition, surtout quand on est favori et qu'on est programmé pour aller au bout. La compétition est longue. Et souvent les premiers matchs sont un peu compliqués, on l'a vu avec l'Espagne hier, il y a d'autres exemples.
Parfois on a un peu du mal, nous, on a un peu du mal à rentrer dedans quoi.
Oui, alors Didier a de bonnes stats sur ce premier match, hein, puisque j'ai vu circuler une stat où il avait perdu qu'une fois, et encore il y a très très longtemps.
C'est une fausse idée.
C'est pas une fausse idée, mais ça génère pas non plus le reste de la compétition. Les Argentins, champions du monde en titre, avaient perdu leur premier match contre l'Arabie Saoudite il y a 4 ans, donc ça va rien.
Quand il dit, Didier Deschamps, qu'il ne voit pas l'équipe de France favorite, mais plutôt l'Espagne, c'est du bluff.
Oui,
c'est quoi, c'est de la superstition?
Non, c'est on file la pression à l'adversaire. Ouais. Mais Didier le sait, il a une génération dorée, notamment en attaque. Tous les autres pays qui nous regardent nous envient parce que on a un banc extraordinaire. C'est de bonne guerre, chaque coach fait ça et se débarrasse de la pression en la mettant sur l'adversaire.
Qu'est-ce que vous pensez de Mbappé? Est-ce que il peut mettre tout le monde d'accord? On a quand même l'impression que en ce moment c'est amour-haine, hein.
Ouais, mais Mbappé, c'est pareil. Il y a toujours débat sur ce garçon. À l'arrivée, il risque d'être encore une fois décisif. En tout cas, il a montré en Coupe du Monde qu'il était là chaque fois. Il a des stats extraordinaires. Il peut battre pratiquement dans cette Coupe du Monde beaucoup de records de buteurs sur une compétition, de buteurs depuis son début d'histoire avec la Coupe du Monde. Buteur, meilleur buteur en finale déjà pour un jeune joueur. Bon, moi je fais confiance à Didier et à cette équipe-là. C'est une machine de guerre quand t'arrives à les compétitions finales. Il y a débat sur le jeu, mais par contre, j'ai vu une stat circuler aussi, je crois que c'était hier dans l'équipe, le pourcentage de matchs gagnés en compétition finale est assez impressionnant pour Didier.
David qui nous appelle au 32-16 depuis le Var. Bonjour David.
Bonjour à tous.
Vous êtes prêts?
Ça va, et vous? Ah bah carrément, tout va bien. Tout va bien, on est super excités pour ce soir, 21h.
Vous serez où ce soir?
Ah bah je serai à Saint-Tropez devant la télé avec mon fils en train de regarder le match évidemment.
Il y a pire.
Ouais, il y a pire.
Il y a pire. On vient. Là, j'ai les pieds dans l'eau, hein, donc ça va. Hein.
Alors votre prono?
2-1 pour la France, évidemment. Avec, je vois bien un but de Mbappé, hein, puisque c'est un compétiteur qui va marquer. Et je vois bien Olise aussi.
Alors, Eric?
Oui. Bon, moi, je suis pas trop fan des pronostics. Je suis pas là pour ça non plus. Et je le disais tout à l'heure, je me méfie de ce premier match et de notre adversaire qui est redoutable. Voilà. Mais allez, une petite victoire, on prend, bien sûr. 1-0, but d'Mbappé, tout le monde le prend.
On prend tout ça, David.
Une belle victoire 1-0.
Oui, et je suis très content de passer avec vous, parce qu'en plus, vous savez, ma femme est marocaine. Donc, vous imaginez la finale Maroc-Sénégal. Donc, il y a un petit peu de piment en plus à la maison.
Mais ce soir, vous avez dit que vous regardiez avec votre fils, vous regardez aussi avec votre femme.
Ah oui, évidemment. De toute façon, oui.
Mais vous avez remarqué quand même, à chaque fois, c'est ça. En fait, mon fils, avec mon chien, avec mon pote. Et madame, alors.
Exactement.
Vous regardez avec qui, vous, Apo?
Et moi, je vais regarder avec mon mari et mes fils. Mais non, il y aura aussi mes filles, d'ailleurs. David, restez avec nous. Une question aussi pour Jean-Louis. Jean-Louis Tour, ce soir, c'est 21h. Il va falloir quand même se préparer aussi pour la suite. Parce qu'il y aura des matchs, au moins le quart de finale, en pleine nuit. Là, pour vous, il est quoi? Il est d'ailleurs 4h du matin.
Il est 1h48.
Ah non, 1h48. 1h48.
On n'est pas couché encore, Jean-Louis.
On n'est pas couché. Voilà,
oui, parce que Jean-Louis, tout à l'heure, a dit demain, il fera bon. En fait, on parle de ce soir, Jean-Louis, nous.
Ah oui, moi j'ai dit demain, pardon. Et c'est encore demain, ouais. Mais c'est vrai. Mais parce que c'est la température chez nous, pas chez vous. Donc forcément, c'est demain. Ah oui.
Évidemment. Jean-Louis, de toute façon, c'est 24-24. Là, en ce moment, c'est 24-24, évidemment, sur RMC. Eric, merci d'être notre fil rouge tout au long de cette Coupe du Monde. Merci à David aussi. David, vous nous rappellerez après le match?
Ah, sans problème, madame de Malherbe. Juste une petite aparté. Mon fils a envie d'être à votre place. Il a envie de faire de la télé. Depuis des années, il a envie d'être présentateur de télé. C'est incroyable. Il fait des études pour ça.
Comment il s'appelle? Voilà.
Naël.
Eh ben, on l'embrasse très fort. On embrasse très fort. Naël. Allez, France-Sénégal, c'est à suivre, bien sûr, sur RMC ce soir, 21h, en direct de New York, en intégralité avec le champion du monde, Emmanuel Le Petit. Avant-match, dès 18h, avec Jérôme Roten, entouré de la légende. Il y aura Jean-Michel Larqué, l'ancien international sénégalais, Souleymane Diawara. Il y aura le débrief aussi dans l'after-foot jusqu'à 2h du matin. C'est ce que je disais, c'est 24-24. RMC, radio officielle de la Coupe du Monde. Il est 7h50. Et c'est Cécile Duflo qui vient d'entrer dans ce studio, La Voix de Gauche. Bonjour Cécile.
Bonjour Apolline.
Cécile, le G7 se poursuit jusqu'à demain à Évian et vous étiez sur place hier, Cécile. Est-ce que ce sommet sert encore à quelque chose?
C'est une bonne question. Il était assez illégitime, il devient sans doute un peu inutile et c'est aussi à cause d'Emmanuel Macron.
Vous nous le dites dans un instant, La Voix de Gauche sur RMC, il est 7h50.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h51, dans un instant La Voix de Gauche. Mais d'abord, le bonus, Mathieu, avec les Anglais de Muse qui sont de retour.
Et l'annonce du jour, c'est celle du retour sur scène en France avant la fin de l'année. 3 dates à Paris, la Défense Arena pour une date unique dans la capitale le 27 novembre. Et puis Montpellier les 3 et 4 décembre prochains à la Sud de France Arena. C'est un retour à l'exception du Hellfest l'an dernier. La dernière tournée de Muse, c'était en 2023 pour leur dernier album. Le prochain sort le 26 juin et déjà depuis quelques semaines, ils révèlent les titres au bout à bout. The Wow Signal sortira le 26 juin, référence à un signal radio inexpliqué capté dans l'espace en 77. Le signal est reçu, ouverture des billetteries à partir de demain pour Muse.
RMC, Apolline Matin.
Voix de gauche.
Voix de droite.
7h52, nous sommes mardi. Et le mardi, c'est la voix de gauche, Cécile Duflo. Bonjour Cécile. Bonjour, le G7 Pauline. A donc commencé hier dans la ville d'Évian-les-Bains. Vous étiez sur place hier soir avec l'ONG Oxfam que vous dirigez. Pour vous, le G7, il était déjà illégitime, il est désormais inutile.
En fait, le G7, il est né en 1975, en même temps que moi. Et l'idée, c'était de mettre ensemble les puissances. Et puis, petit à petit, il y a eu un certain nombre de sujets qui ont été traités de manière pas forcément inutile, même s'il y a toujours eu de la tension avec la la société civile. Mais le problème de celui-ci, c'est que c'est devenu juste une sorte de show, de mise en scène. Les sujets plus importants ont été mis sous le tapis. Ça coûte très très cher. J'ai une petite pensée pour les habitants d'Évian et de l'entourage qui sont mis sous cloche, qui peuvent plus rien faire. Il y a environ 14 000 forces de l'ordre en tout. On est sur un budget de presque 80 millions d'euros. Et pour pas grand-chose finalement.
Pour pas grand-chose ? Pourquoi ? Alors d'abord, ça a toujours été le cas quand même, j'imagine. C'est le fait d'être dans une sorte de bulle de protection, de sécurité, non ?
Alors c'est pas faux, parce qu'il y a déjà eu un G7, à l'occurrence c'était un G8, à Évian en 2003. C'était Chirac qui était président de la République en France. C'était George Bush qui était le président des États-Unis. Il y avait déjà une guerre, c'était pas l'Iran, c'était l'Irak à l'époque, une guerre tout aussi illégale. Il y avait les mêmes problèmes de sécurité, mais il y avait des sujets à la table des discussions qui étaient des sujets beaucoup plus brûlant. Et puis, les pays du G8, à l'époque, c'était les trois quarts de l'économie mondiale. Aujourd'hui, c'est 40% à peu près. Donc, c'est un sommet sans la Chine, qui est la deuxième puissance économique du monde, sans l'Inde, la cinquième, et avec pourtant théoriquement des sujets économiques. Donc, on voit bien que c'est très, très bancal, cette situation.
Mais ça veut dire quoi ? Ça sert à rien que les dirigeants se parlent ?
Ben, en fait, si, ça sert. Il faut le dire, que ce soit les riches dont on a le sentiment qu'ils décident de l'avenir du monde, c'est problématique, mais qu'il y a plein d'initiatives, au sein des BRICS, les pays du Sud. Il y a l'initiative Bridgerton sur la taxation des superprofits pétroliers. Il y a un certain nombre de pays, justement, qui travaillent ensemble. Et là, le problème, c'est que je crois que Macron, il a surtout voulu la photo. Et la photo avec Trump. Et d'ailleurs, on voit bien qu'il y a une très petite mobilisation de la société civile par rapport à 2003, parce que tout le monde a bien conscience qu'il ne va pas se passer grand-chose lors de ce G7.
Ça veut dire qu'il y a une forme de responsabilité de la part d'Emmanuel Macron pour vous à avoir rendu encore plus inutile ce G7. Qu'est-ce qu'on peut quand même en espérer ?
Il a accepté les décisions brutales des États-Unis de dire on ne parle pas de climat en 2026. Entre ces pays-là, ça n'a aucun sens. Entre les deux plus grosses canicules de l'histoire de France entre mai et juin, on ne parle pas de genre. On a juste à peine le droit de parler des femmes et des filles. On est en 2027. On ne parle pas non plus de droits humains. Et quand il a dit qu'il ne voulait pas voir le président d'Afrique du Sud, on l'a écarté. Donc, parler des déséquilibres sans la Chine et sans l'Inde, je l'ai dit, ça ne fonctionne pas. Donc, la politique, là, elle est en train de se noyer dans la com. Et on le voit bien parce qu'elle va se terminer à Versailles. À Versailles, dans un feu d'artifice.
Littéralement.
Littéralement, ce sera la fin. Et c'est comme ça que le G7 va de fait s'achever. Et je me demande si ça ne va pas tout court achever le G7.
Merci beaucoup Cécile Duflo. Donc la voix de gauche sur RMC, demain ce sera la voix de droite, Louis Sarkozy. Il est 7h55, on se retrouve dans un instant, le journal de 8h à la une, France-Sénégal ce soir, premier match des Bleus dans la Coupe du Monde. Nous serons en direct de New York où a lieu la rencontre. Après le journal, il y aura l'économie avec vous Emmanuel Le Chypre. Emmanuel, après l'accord entre l'Iran et les États-Unis, est-ce que les prix du carburant vont baisser ?
Je vous dis tout, combien, quand, où, comment ?
Il a sa boule de cristal, il est venu avec. Allez, la météo, Géraldine nous dira aussi qu'il va faire de plus en plus chaud. Restez bien avec nous, il est 7h56 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Il est 7h59, excellent réveil à tous sur RMC. Très belle journée.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. C'est enfin le début de la Coupe du Monde pour l'équipe de France. Premier match ce soir pour nos Bleus contre le Sénégal. Les Bleus qui sont à New York et on va vous donner les toutes dernières informations dès le début de ce journal. On sera aussi à Évian pour la deuxième journée au sommet du G7. Il sera question de la guerre en Ukraine aujourd'hui. Et vous allez voir que le monde est actuellement en pleine bascule. On apprend ce matin que désormais, on s'informe davantage via Facebook et TikTok que par les médias traditionnels.
Et on va enfin voir les Bleus à la Coupe du Monde.
RMC,
radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
C'est long, hein, à chaque fois, entre l'annonce de la liste, les matchs de préparation, le voyage vers les États-Unis. Et donc, ça commence enfin. La France joue ce mardi son premier match du mondial contre le Sénégal. Ce sera à 21h au stade de New York, juste à côté d'ailleurs du studio de RMC. On est vraiment aux premières loges pour tout vous raconter de cette journée qui va nous mener jusqu'au match des Bleus ce soir. Jean-Louis Tour, c'est vous qui allez le commenter. Vous êtes en direct avec nous ce matin. Dites-nous à quoi va ressembler la journée des Français.
Alors, une journée inhabituelle, car inhabituel car il sera 15h dans le New Jersey au moment du coup d'envoi. Alors on change quelques habitudes. La dernière séance vidéo qui habituellement est organisée le matin du match a été avancée à hier soir à l'hôtel des Bleus. Autre changement, le réveil musculaire a été tout simplement supprimé. Pour le reste, Deschamps a tenu à préserver une certaine routine. Petit déjeuner, puis déjeuner tout de même assez tôt avec l'ensemble du groupe avant une courte sieste indispensable. indispensable selon le staff, même avec un match à 15h. Petite collation juste après pour ceux qui le souhaitent. Et puis viendra le moment des dernières consignes du sélectionneur, l'occasion peut-être de remobiliser les joueurs, de rappeler la compo d'équipe avec les quatre attaquants, Mbappé, Dembélé, Olise et Doué. Et puis départ vers 13h, heure de New York, car le staff des Bleus souhaite arriver au MetLife Stadium 1h30 avant le coup d'envoi et qu'il faut compter une trentaine de minutes de route depuis l'hôtel des Bleus.
21h donc ce coup d'envoi en votre compagnie, Jean-Louis Tour en direct de New York pour RMC. Tiens, New York où des supporters français se sont rassemblés il y a quelques heures, c'est à Times Square, parce qu'il y a de l'impatience, hein. Ça fait des mois qu'on en parle de cette Coupe du Monde, comme ici vous allez l'entendre à Évreux dans la ville d'Ousmane Dembélé qui a vu passer plein de joueurs, hein, de l'équipe de France, Thomas Chupin.
Et on le comprend très vite ici, nous sommes avec les successeurs de grands noms du football, hein.
Dembélé, Upamecano, Steve Mandanda, Brissamba. Mathieu Bonner, il a pas joué en équipe de France.
Et il y aura forcément des jaloux parce qu'un nom est crié plus fort que les autres.
Allez Dembélé !
L'attaquant des Bleus, un modèle pour ces jeunes de l'équipe d'Evreux des moins de 13 ans.
Allez, checkez-vous une dernière fois.
C'est fin, petit pont, crochet. C'est petit pont, c'est crochet. Son pressing.
Il a le ballon d'or là. Il y a des gens, ils disaient il était nul, maintenant ils sont là, maintenant ils reviennent, hein, bizarrement.
Alors forcément, il y a quelques sélectionneurs ici.
Il faut que Didier Deschamps le mette avec ses gars du PSG, comme ça il sait comment ils sont. Faut pas qu'il le mette avec Mbappé parce qu'ils sont en embrouille, voilà.
Oui, parce qu'il y a débat. Qui est le meilleur, Mbappé, Dembélé? Ce soir, c'est bien pour le deuxième que va vibrer Maé.
Dembélé fait plus le pressing, les retours défensifs. Il est moins égoïste qu'Mbappé.
Alors Jaden en est persuadé, ce soir Dembélé va entamer une Coupe du Monde record.
8 buts et 6 passes D.
Et en bonus, on a même le scénario du but final.
Il traverse le terrain, il dribble le goal, il fonce le défenseur, il marque après.
Et eh ben voilà, hein, on verra si ça se passe comme ça ce soir à 21h. Pourquoi pas, hein, on a vécu pas mal de surprises là depuis hier. Et alors la dernière, elle est tombée cette nuit, Virginie Fulpin pour RMC. C'est la Tunisie qui change carrément de sélectionneur en pleine Coupe du Monde. Sabri Lamouchi, donc viré après la défaite des Tunisiens au premier match et remplacé par quelqu'un qu'on connaît bien, à savoir Hervé Renard.
Oui, on a déjà vu sa célèbre chemise blanche sur les bancs de nombreuses sélections. Il va disputer sa quatrième Coupe du Monde avec quatre équipes différentes. Le Maroc en 2018, l'Arabie Saoudite en 2022, avec au passage une victoire sur l'Argentine de Lionel Messi, et puis l'équipe de France féminine il y a 2 ans. Hervé Renard a aussi gagné 2 Coupes d'Afrique des Nations, d'abord avec la Zambie, puis avec la Côte d'Ivoire, donc on peut dire qu'il a vu du pays. Il va monter dans l'avion dès ce matin, un vol direct Paris-Monterrey. Il va diriger son premier entraînement avec la Tunisie dès ce soir. Pas le temps de se poser de questions. C'est peut-être mieux comme ça parce que l'entraîneur français arrive en terrain miné. La sélection tunisienne à la tête sous l'eau depuis sa déroute 5-1 face à la Suède pour son entrée dans cette Coupe du Monde. La fédération a tout de suite publié un communiqué pour annoncer le limogeage de Sabri Lamouchi avant de retirer cette publication des réseaux. Finalement, le limogeage a bien eu lieu et Hervé Renard va jouer les pompiers de service le temps de la Coupe du Monde. Il a 2 matchs pour convaincre contre le Japon et les Pays-Bas.
Et alors les yeux du monde entier étaient rivés cette nuit sur le match nul de l'Iran, 2-2 contre la Nouvelle-Zélande. À la fin de ce match, le sélectionneur iranien indique que son équipe était, je cite, la plus maltraitée de cette Coupe du Monde. Il y a des sifflets qui ont été entendus dans le stade de Los Angeles pendant les hymnes, pendant que l'hymne iranien a été joué à Los Angeles, où se jouait ce match de l'Iran, dans le contexte que vous connaissez, hein, de la guerre avec les États-Unis. Alors un accord a été annoncé dans la nuit de dimanche à lundi pour y mettre fin à cette guerre au Moyen-Orient. Et c'est seulement hier soir que Donald Trump a réagi et promis une réouverture totale vendredi du détroit d'Hormuz. Il l'a dit depuis le sommet du G7 qui se déroule là pendant 3 jours à Evian. Vous y êtes en direct pour RMC, Rachel Sadodine, on vous retrouve ce matin. Et aujourd'hui, il sera question de la guerre en Ukraine.
Oui, le président ukrainien est attendu d'ici un peu moins d'une heure ici à Evian, où il devrait être accueilli en personne par Emmanuel Macron. Signe que, et Volodymyr Zelensky le sait, l'Ukraine peut compter sur le soutien de ses alliés européens et britanniques. C'est donc le président américain qu'il faut maintenant convaincre, car les relations sont parfois tendues avec Donald Trump, que Volodymyr Zelensky a d'ailleurs accusé dans un sourire d'accaparer tous les hélicoptères pour venir au G7. Le président ukrainien a donc indiqué qu'il se rendrait à Evian par ses propres moyens. Arrivé lui dès hier au bord du lac Léman, Donald Trump s'est targué d'avoir eu une très bonne conversation dimanche avec ses homologues ukrainiens et russes. Lui qui a à plusieurs reprises affiché une forme de fascination pour Vladimir Poutine. Volodymyr Zelensky espère donc obtenir un entretien bilatéral avec le président américain dans la foulée de la réunion de travail consacrée à la paix en Ukraine qui occupera une bonne partie de la matinée.
Et ne manquez pas mon invité à 8h30 dans le face-à-face. Ce sera Thierry Breton, l'ancien commissaire européen et ancien ministre de l'économie. Rendez-vous à 8h30 sur RMC BFM TV.
La Corse
Ça, ce sera le dossier du jour à l'Assemblée nationale. Les députés vont examiner le projet de loi qui prévoit de modifier la Constitution pour accorder à Lille un statut d'autonomie dans la République. Revendication de longue date des nationalistes, mais sans que l'on ne sache encore quel sera le périmètre précisément de cette autonomie. Il y a un changement qui est déjà amorcé, je vous le disais, et ça concerne la façon dont on s'informe. Nous sommes en ce moment à une grande bascule, hein, Romain Houg. Un rapport de référence nous apprend que désormais dans le monde, on s'informe davantage via les réseaux sociaux et les plateformes vidéo que via les médias traditionnels.
Oui, l'Institut Reuters, rattaché à la prestigieuse université d'Oxford, a interrogé pas moins de 100 000 personnes dans 48 pays différents. Et le résultat est sans appel. 54% des répondants disent s'informer en se connectant aux réseaux sociaux ou aux plateformes vidéo. Ça monte même à 56% si on ajoute les intelligences artificielles comme ChatGPT, contre 52% pour la télévision, 51% pour les sites et applications de médias et seulement 21% pour la radio. C'est encore plus vrai quand on regarde du côté des jeunes de moins de 24 ans. Plus d'un sur deux s'informe principalement via les réseaux sociaux. À l'inverse, seuls les plus de 45 ans le font principalement en regardant leur poste de télévision. Alors, tout cela est une tendance de fond depuis quelques années, mais voilà, c'est la première fois que les médias traditionnels cèdent leur place de première source d'information. Et puis, l'autre enseignement important, seuls 37% des sondés ont confiance dans les médias. Jamais ce chiffre n'était tombé aussi bas.
Alors le rapport écrit à propos de l'intelligence artificielle que c'est, je cite, le plus grand défi auquel sont confrontés les patrons des médias et aussi les décideurs politiques. Je vous dis ça parce que là, à l'instant, ce matin, le Premier ministre Sébastien Lecornu annonce que la France va investir 655 millions d'euros supplémentaires dans le développement en France de l'intelligence artificielle via notamment un outil conversationnel généralisé d'intelligence artificielle pour 1 million d'agents de la fonction publique.
C'était le journal de Quentin Vinet. Il est 8h07, on parle économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Comme chaque matin avec vous, Emmanuel Le Chypre. Emmanuel, les prix des carburants vont-ils baisser enfin? Quand? De combien?
Alors, remontons toute la chaîne de production de notre litre d'essence. Au départ, c'est du pétrole dont le prix va baisser. La réouverture du détroit d'Ormuz, alors à condition qu'elle se confirme et qu'on n'ait pas de mauvaise surprise géopolitique, cette réouverture va remettre progressivement sur le marché 20% de la production mondiale. Alors certes, ça va pas se faire du jour au lendemain. Il va falloir réparer les installations endommagées. Il va falloir que les supertankers arrivent en Europe, ce qui prend environ une vingtaine de jours. Il va y avoir une forte demande pour reconstituer les stocks dans lesquels les États ont puisé 300 millions de barils à peu près, mais les prix devraient se rapprocher en quelques semaines de leur niveau d'équilibre d'avant-guerre autour de 70 dollars le baril. Je rappelle qu'on était sur un marché mondial en surproduction et qu'on reste, une fois Hormuz rouvert, sur un marché mondial en surproduction. Donc 70 dollars le baril, c'est l'objectif. En un week-end, on est passé de 92 à 82 dollars le baril. Donc là, on tient déjà 10 centimes de potentiel de baisse. Si on baisse jusqu'à 70 dollars le baril, allez hop, ça nous rajoute 10 centimes de baisse potentielle.
Mais là, vous nous parlez de pétrole. Nous,
oui.
Ce qu'on met dans la voiture, c'est de l'essence. Donc, quelle est la différence et quand est-ce que ça se verra à la pompe?
C'est tout à fait juste, Apolline.
Alors, c'était malin.
Alors, suivons le chemin de notre baril de pétrole. Ce pétrole, il est acheté par des raffineurs qui vont le transformer en carburant, en gazole, en sans-plomb. Et il sera revendu ensuite aux distributeurs. Là, on a déjà baissé quasiment de moitié depuis la mi-avril. Et puis, rappelez-vous, il y a ces fameuses marges de raffinage. En janvier-février, avant la guerre, on était à 4 centimes par litre. Okay. On est monté pendant la guerre à 15 centimes par litre. En mai, on était à 13 centimes par litre. Imaginons que ces marges se dégonflent et reviennent au niveau qu'elles atteignaient avant la guerre. Et ben, ça nous refait 10 petits centimes, donc 10 plus 10 plus 10, ça nous fait une trentaine de centimes de potentiel de baisse dans les prochaines semaines, ce qui nous ramènerait de 1,95 à 1,65 le litre. On retrouve à peu près les prix d'avant-guerre. Alors ça ne se diffusera pas au même rythme dans toutes les stations. Les plus fréquentées sont réapprovisionnées tous les jours, les moins fréquentées tous les 8 à 10 jours. Mais grosso modo, dans le courant de l'été, ce qui sera sans doute plus favorable aux Aoussiens qu'aux Juilletistes, on retrouvera des prix du carburant plus raisonnables. Alors, le petit conseil pour pas faire le plein, c'est que quand les prix baissent, bah, prenez juste ce dont vous avez besoin.
Et attendez que ça baisse encore.
Et puis revenez plus souvent en profitant. Non, mais plutôt que de faire un plein cher, allez-y, faites-le.
En espérant effectivement que dans les jours qui viennent, ça sera de moins en moins cher.
Alors, ce sera très probablement de moins en moins cher.
Aujourd'hui, on en est où? Comme tous les jours, les chiffres exacts, Manu.
Alors, sur le gazole, bah, ça continue à baisser gentiment, hein. 1,98€, c'est 4 centimes de moins une semaine. Sur le sans-plomb, ça résiste toujours, 1,95€ le litre. Ça baisse pas beaucoup depuis ces quelques jours. Mais sur le pétrole, $82 le baril. On a perdu $10 en un week-end et le gaz, on a perdu 15%.
Donc le gaz, il baisse aussi beaucoup. Merci Emmanuel, 8h11.
I'm free. Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Restez bien avec nous, il est 8h11 sur RMC. Dans un instant, Arnaud Demanche arrive à 8h30, le face-à-face. Mon invité, ce sera Thierry Breton, l'ancien commissaire européen, ancien ministre de l'économie. Après 108 jours de guerre, les États-Unis et l'Iran ont donc officiellement trouvé un accord. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a dans cet accord? Quelles conséquences pour nous? Et puis le G7, bien sûr. Thierry Breton, c'est donc mon invité à 8h30. Juste après, il y aura le choix de la rédaction. Après l'affaire Liana et le scandale des abus sexuels dans le périscolaire, de plus en plus de parents hésitent, vous l'entendrez, à envoyer leurs enfants en colonie de vacances. Il est 8h11 sur RMC, à tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de Manche.
C'est tous les jours, Arnaud de Manche, 8h15.
Bonjour Apolline, bonjour Géraldine, Élise, Mathieu, bonjour à tous. On est motivés car ce soir, c'est le début des Bleus en Coupe du Monde.
Allez la France.
Dalida, pour le mondial. Apolline, chez elle, il y a tout le kit du supporter. Il y a des perruques bleu, blanc, rouge, des maillots, des sifflets. Elle a même adopté un coq. Il gueule très fort et il parade. Du coup, elle l'a appelé Jean-Jacques. Et Apo, elle va gueuler devant sa télé. Allez Dembélé! Allez Dembélé! Alors que c'est Lucas Digne. Le match est à 21h, donc à la mi-temps, bah, Apo, vous allez vous endormir. Hein. On se lève tôt.
Peut-être dès la pause fraîcheur.
Oui, en fait, si ça peut vous consoler, on va tous s'endormir. C'est Didier Deschamps, le sélectionneur. C'est pas un jeu très flamboyant. Et donc, c'est la France contre le Sénégal. C'est le match de ce soir, mais c'est aussi le programme d'Éric Zemmour.
Oui.
Alors, les supporters sénégalais n'ont pas eu le droit d'entrer sur le territoire américain. Même pour certains joueurs, ça a été compliqué, cette Coupe du Monde au niveau immigration. Les gars de la police de l'immigration, ils vont être sur le bord du terrain avec le panneau des arbitres pour les remplaçants, vous voyez, avec les chiffres. Sorti du numéro 4, du numéro 5, du 11, du 14, du 9, du 2, du 3, du 17. Mais il n'y a pas de remplaçants qui entrent? Si, si, mais dans leur pays. Et alors, Apolline, est-ce que vous avez vu la rumeur de ce mondial?
Effectivement, une rumeur court sur les réseaux sociaux. Ce serait un sosie de Shakira qui aurait chanté pour la cérémonie d'ouverture. J'avoue, je ne l'ai pas reconnue.
Eh ben, son apparence a intrigué, hein. C'est fou. Shakira, même à un concours de sosie de Shakira, c'est pas sûr qu'elle gagne. Même les photos de Xavier Dupont de Ligonnès chez Julien Courbet, ils ressemblaient plus à Shakira que ça. Non, mais ça doit être la chirurgie esthétique. Alors, est-ce que c'était elle? Eh bien, j'ai bossé, figurez-vous, Apolline. Et en exclusivité pour RMC, je suis avec Shakira en ligne. Shakira, est-ce que c'était vous?
Tout à fait. Entre deux Coupes du Monde, je me suis ressourcé à l'Institut du Monde Arabe pour préparer ma prestation. Jamminamina, Jamminamina, j'en ai ouah, les chalpores africains. J'en étais sûr, c'était pas elle. C'était Jack Lang avec une perruque, on s'est tous fait avoir.
Karim Bouamran, le maire de Saint-Ouen, se lance dans la course à la présidentielle.
Oh, chouette! Ça manquait de candidat.
Ouais.
Alors, Karim Bouamran, on le connaît parce qu'il a tenté de faire fermer un master poulet dans sa ville.
Ah, c'est Jean-Jacques?
Ouais, il va voter Bouamran, votre coq. Couché, Jean-Jacques, on travaille. Il avait raté le Master Poulet. Si déjà Master Poulet, c'est compliqué, imaginez face à Master Poutine, ça va être dur. Et même face à Trump, l'homme qui se débarbouille avec des chicken wings, comment il va faire? Alors Karim Bouamran, il représente un peu l'aile droite de l'aile gauche de la frange la plus à droite du PS.
L'aile?
C'est l'aile de poulet,
voilà.
Exactement, c'est l'aile à Jean-Jacques. Et il est coincé entre les autres candidats de gauche, donc François Hollande, Parti Socialiste, Raphaël Glucksmann, Place Publique,
Jérôme Guedj, oui.
Lydie Massard, ouais, Union Démocratique Bretonne,
oui.
Pierre Rouselier, Socialisme et Phytothérapie, Étienne Boissard, Socialisme et Caramel. Il y en a plein. Ceci dit, ils ont quand même tous un point commun, ils trouvent qu'Olivier Faure est nul. Bah c'est bien, ça rassemble.
Bon, et puis hier, Arnaud, c'était le bac philo.
Alors les sujets, vous avez vu les sujets? Peut-on être heureux quand les autres ne le sont pas? Bah oui. C'est même mieux. Sinon, il n'y a aucun intérêt. Il y avait aussi.
Il y a la mention, Arnaud.
Il y a aussi la technique peut-elle être mauvaise. Alors, j'ai quelques ex qui m'ont reproché ça, mais je trouve que c'était très exagéré. Mais c'est compliqué, la philo. Aujourd'hui, en plus, les gamins, ils sont beaucoup sur TikTok. J'ai des parents d'amis qui sont désespérés. C'est pas là qu'on apprend la philo, quoi. T'as pas Jérém Star qui reçoit des philosophes dans son bain.
Salut les chouchous. Alors, aujourd'hui, le sujet du bac. Avons-nous la maîtrise de nos paroles? Et c'est vrai, moi, ça m'arrive de paroler, mais parce que je suis pipelette et tout, je parole, je suis Dalida. Et pour en parler, je suis avec Bernard-Henri Vély, qui est dans mon bain. Bonjour BHV. Non, BHL. Pardon. En tout cas, j'adore votre chemise, hein. Elle est toute blanche et tout. Ça te voit que vous êtes marié avec une lessive. C'est Ariel. Alors, vous êtes philosopheur. Fist, non, ça ira. Donc, philosophiste, donc, et votre préféré, c'est.
Ah non, pas
c'est le grand-père de N'Golo Kanté, c'est Emmanuel Kanté. Non, Kant. Et mon philosophe préféré, c'est Nietzsche. Vous n'avez pas lu mes livres? Ben non, je ne les ai pas lus, mais comme tout le monde en fait. Là, pour le coup, je suis au niveau des autres. Alors, Nietzsche, j'ai révisé. C'est celui qui a écrit « Ainsi parlait Zaya, tout ça ». Et il explique comment elle parlait Zaya, tout ça, comment elle a fait Sori Berry, tout ça. C'est là qu'on voit que la parole, c'est important. Vous voyez, il y a encore un peu de taf quoi, en philo. Allez, à demain.
À demain. Arnaud, qu'on retrouve en podcast, en direct sur RMC et en tournée all partout en France. World Wild, ça commence à Nice, à Épinal, à Gaillac, à Toulon, à Tours, à Morières-les-Avignons et à Paris en solo.
Au solo.
Au
il est même pas en solo.
En plus, c'est en duo.
En plus, c'est pas en solo. Il sera en duo. Et ce sera le 25 juin prochain. Mais ça approche, dis donc.
Et ouais, c'est pour après-demain.
Oh là là, magnifique. Allez, un spectacle RMC, il est 8h20.
Votre moment humour avec Seigneurie. Avec les peintures Seigneurie, vos chantiers prennent vie. Seigneurie, aux côtés des artisans peintres.
Et on part au 32-16 à 8h20. C'est Julien qui est en direct avec nous de Montpellier, qui est infirmier. Bonjour Julien.
Bonjour Apolline, bonjour l'équipe.
Comment ça va Julien? Vous êtes prêt pour ce soir?
Ouais.
21h, France-Sénégal.
Ouais.
Vous voyez les choses comment?
Bah ouais, enfin moi j'ai le traumatisme de 2002, donc là le Sénégal en plus c'est une grosse équipe, on n'a pas le droit de se couper.
Ouais, le Sénégal avait battu la France.
Ouais mais c'est il y a 24 ans Julien.
24 ans.
La plupart des joueurs ils étaient même pas nés.
Bah oui mais moi oui. À 40
très bonne réponse.
J'ai vécu.
Très bon Julien, très bon. J'adore, bah oui mais moi oui.
Et je reste moi je prends bien une surprise comme champion du monde. Genre
ah oui
l'équipe africaine. Ouais,
ah oui.
Je sais pas pourquoi. J'aimerais qu'on ait la troisième étoile, mais parce que quand on voit l'Espagne qui fait match nul contre le Cap Vert, le Brésil, le Maroc qui tient tête au Brésil.
Mmh. Oui, oui, oui. Et puis c'est pas mal de temps en temps des surprises. Bon, jusqu'à un certain point.
Surprenez-nous,
mais laissez-nous gagner à la fin, quoi. Julien, très très belle journée donc dans l'attente de ce match de ce soir. Ce sera à suivre sur RMC. C'est vrai que la journée va être très 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 longue.
Heureusement qu'il y a la radio 100% Coupe du Monde.
Complètement. Il est 8h22. Tiens, je vais lui poser la question. Tiens, vous savez quoi? Je reçois tout à l'heure Thierry Breton. Alors Thierry Breton, on sait surtout qu'il est ancien commissaire européen. On sait surtout qu'il est ancien ministre de l'économie. On sait un peu moins qu'il a aussi la nationalité sénégalaise. Oui. Alors je ne sais pas pour qui il vibrera ce soir. Je lui poserai bien sûr la question. Enfin, ce sera pas le cœur de l'interview. Mais ça mérite ça mérite une question. C'est donc sur RMC et BFM Thierry. Et BFM Thierry Breton, mon invité dans un instant. Oui, mais voilà, Arnaud, demain, juste avant le face-à-face. Comment voulez-vous, moi, que je reste sérieuse? Allez, à tout de suite. Merci d'écouter RMC. Il est 8h24.
RMC. Apolline Matin.
Le rappel des titres, Quentin Vinet.
La guerre en Ukraine, voilà de quoi il sera question aujourd'hui au sommet du G7 qui se déroule pendant 3 jours à Evian, en présence de l'Ukrainien Volodymyr Zelensky et de l'Américain Donald Trump qui a réagi hier soir à l'accord avec l'Iran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient. Donald Trump promet une réouverture totale vendredi du détroit d'Ormuz. C'est dans ce contexte que les distributeurs de carburant sont convoqués dans la matinée à Bercy, au moment où le litre de gazole repasse pour la première fois depuis le 7 mars sous la barre des 2 euros d'après les chiffres du gouvernement. gouvernement. C'est enfin le début de la Coupe du Monde pour l'équipe de France de football. Ce mardi, les Bleus qui vont jouer ce soir à 21h leur premier match du Mondial contre le Sénégal. C'est la même affiche qu'en 2002. Ce sera en plein après-midi à l'heure américaine au stade de New York, juste à côté du studio de RMC. Les supporters français sont rassemblés durant la nuit. Ils ont donné de la voix à Times Square, en plein cœur de New York, où il y a eu quelques heures aussi entre supporters algériens et argentins. Les deux pays qui s'affronteront la nuit prochaine à 3h du matin. Cette nuit, l'Iran a fait match nul de partout contre la Nouvelle-Zélande et la Tunisie a officialisé son changement d'entraîneur, Sabri Lamouchi, viré après la défaite inaugurale, remplacé par le français Hervé Renard. Et puis la météo pour aujourd'hui, le ciel parfois voilé, c'est demain qu'on entrera dans la 52e vague de chaleur de notre histoire et les températures pour cet après-midi comprises entre 20 à Brest et 35 à Perpignan.
C'était la météo sur RMC. Bonne journée.
C'était le rappel des titres de Quentin Vinet. Dans un instant, mon invité, c'est Thierry Breton, l'ancien ministre de l'économie, ancien commissaire européen. Donald Trump arrive en France. Et puis, vous savez quoi? Eh bien, Thierry Breton, il a même pas le droit à un visa américain. Que dire à Donald Trump? Qu'attendre de ce G7? Les réponses avec Thierry Breton dans un instant.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Thierry Breton.
Bonjour.
Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes bien sûr ancien commissaire européen, ancien ministre de l'économie et l'arrivée de Donald Trump hier. Donald Trump, dont on peut repréciser ici que vous n'êtes toujours pas officiellement autorisé à fouler le sol américain. On en est où?
Bah, à ce stade, non, mais on va voir, ça peut évoluer.
On va voir, vous voulez dire que peut-être que dans les 24 heures, vous obtiendrez votre visa. Plus sérieusement, Thierry Breton, si précisément il vous a été refusé, c'était le signe, déjà, sans doute, d'une difficulté à trouver la meilleure manière d'être à la fois indépendant, autonome, concurrent même avec les États-Unis, sans en être les vassaux. Conférence de presse de Donald Trump cet après-midi, grand dîner à Versailles demain soir, on va parler évidemment du G7, mais d'abord cet accord ou ce pré-accord dont on commence à connaître les détails, peu de détails, ça devrait tenir sur un Bristol quasiment, c'est ce que nous disait François Clémenceau tout à l'heure. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle cet accord ?
La bonne nouvelle, c'est que cette guerre qui n'avait aucun sens, puisqu'on voit maintenant qu'aucun des buts de guerre n'a été atteint, touche à sa fin. En tout cas, il faut vraiment l'espérer. Donc ça, bien sûr, les uns et les autres vont dire, et on va y revenir très certainement, finalement c'est pire qu'avant, etc. La bonne nouvelle, c'est qu'on voit enfin le bout du tunnel. Et pardon de le dire, mais il faut s'en réjouir. D'abord, pour les Iraniens. Parce que c'est quand même le peuple martyr. Le peuple martyr à qui on a fait croire qu'on viendrait les libérer. Ça a été l'un des éléments de déclencheur de la guerre, on s'en souvient. Je fais allusion évidemment à Donald Trump lorsqu'il a dit, après son succès de l'exfiltration, je mets des guillemets, de Monsieur Maduro, attendez, j'arrive, et on a vu ce qui s'est passé, des dizaines de milliers de morts. On sait que c'était évidemment la première logique, le changement de régime. On a vu ce qu'il en est. Le deuxième objectif, c'était évidemment l'arrêt de la capacité dont l'Iran s'est doté d'être très proche de l'arme nucléaire. On voit ce qu'il en est. Je dis on voit ce qu'il en est parce que maintenant, cette interdiction légitime, encore une fois, je le redis, elle est reléguée au calende. Bien sûr, on va en discuter, on va se donner 60 jours. Mais enfin,
vous n'avez pas l'air d'y croire beaucoup à ça.
Non, parce que derrière, il faut évidemment revenir quasiment à ce qui avait été fait avec l'accord du JCPOA, c'est-à-dire la possibilité d'avoir sur le terrain des inspecteurs indépendants, et notamment ceux de l'AIEA, pour aller contrôler.
On ne peut pas prendre pour argent comptant la parole iranienne.
Non, bien entendu, on le sait, on les connaît bien. Donc voilà, on verra, et je le souhaite évidemment, qu'on puisse y arriver. Mais enfin, ça va prendre un temps fou. Et puis surtout, Apolline de Malherbe, surtout, on va, et on l'espère tous, arriver à ce cessez-le-feu qui va durer, la fin des hostilités, la réouverture progressive du détroit d'Ormuz. Mais il est inconcevable, je pense, pour toute personne sensée, de penser que les États-Unis vont redémarrer une guerre. Donc ce spectre qui avait quand même fait bouger l'Iran, il est derrière. Donc on va rentrer dans une phase de discussion de 60 jours, 90 jours, que sais-je, sans avoir ce spectre. Donc on espère tous, évidemment, qu'on va convaincre les Iraniens d'avoir à tout le moins peut-être à tout le mieux du reste. Un temps dans pendant lequel on dit 20 ans, on dit 15 ans, et ils vont s'interdire de procéder à la nécessité.
Mais il faudra
nécessité.
Rester au minimum vigilant, si
mais
je
plus
le
que vigilant,
plus que vigilant. Avec quand même, quelques contradictions dans ce que vous venez de dire, Thierry Breton, parce que vous commencez par dire il faut malgré tout s'en réjouir, y compris pour le peuple iranien. Est-ce que vraiment on peut se réjouir pour le peuple iranien que l'Iran sorte, alors je ne sais pas renforcé, mais au minimum pas affaibli.
Vous avez raison de le signaler, s'en réjouir, parce que c'est quand même, ils ont été victimes de bombardements, pardon, excusez du peu, y compris,
bien
on
sûr.
Se souvient des écoles avec des petites filles. Donc ça a été quand même épouvantable. On sait qu'aujourd'hui, il y a 68%, vous m'entendez, d'inflation depuis le début de l'année en Iran. Donc on sait qu'aujourd'hui, l'Iran et donc le peuple iranien ne peut disposer de l'ensemble des matières premières dont il a besoin, y compris pour se nourrir à cause du blocus dans le blocus.
Mais lorsque vous dites vous-même, c'est évidemment, je ne parlais pas des bombardements, mais lorsque vous dites vous-même que dans ce début d'accord, en gros, on va donner pendant 60 jours une sorte de coup d'effranche aux Iraniens, puisqu'ils n'ont plus le pistolet sur la tempe d'une menace de reprise de la guerre, que tout le monde a compris éloigné désormais, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'abandon quand même du peuple iranien?
Mais alors ça, c'est le deuxième point, évidemment. Alors le premier, c'était quand même pour l'instant.
Bien sûr, sur le fait que les canons se taisent,
Les hôpitaux puissent refonctionner, il faut aussi les reconstruire, etc. Mais le deuxième élément, et c'est ce que je disais peut-être au préalable donc de nos propos, c'est que le changement de régime qui avait été la raison principale de en tout cas officiellement, il est complètement derrière nous, et malheureusement, et vous avez parfaitement raison de le rappeler, malheureusement on a là un régime qui s'est survécu à lui-même, qui a résisté, qui va du reste revendiquer cette victoire stratégique. Clairement, puisqu'il a résisté, c'est comme ça qu'il le vend évidemment, et à sa population, mais aussi à l'ensemble des autres pays de la région, y compris plus élargi au sein du BRICS. Donc voilà donc David qui a résisté contre Goliath.
Et
donc
ça
va être le narratif iranien. Et donc le peuple iranien, eh bien on a toujours pas réussi à lui rendre sa liberté. Et il va continuer à vivre sous ce régime.
Au-delà des scénarios, du récit que chaque parti va en faire, lorsque l'on regarde les faits, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui Donald Trump est un homme puissant ou un homme faible?
Mais, il va arriver de toute façon en majesté, c'est ce qu'il voulait. Il va arriver là au G7, il est arrivé hier soir au G7, donc il va se revendiquer de cet accord, encore une fois, de la fin probable des hostilités qu'il avait lui-même déclenchées. On va avoir un narratif triomphant. On sait qu'il est très fort pour cela. Donc on va entendre pendant 3 jours le narratif triomphant. L'ensemble des 6 autres membres, le G7, ils sont 7, donc 6 plus 1, donc qui avaient peur qu'ils ne viennent pas, parce que évidemment c'est quelque part le temple, le symbole du multilatéralisme.
Est-ce que tout le monde vit dans une forme de crainte désormais vis-à-vis de Donald Trump?
Bien entendu, une sorte de crainte, le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas, tout le monde a compris que nous étions désormais dans une logique de rapport de force, puisque la confiance, qui était, je dirais, l'élément qui nous a permis de rebâtir le monde d'après-guerre, a volé en éclats. C'est Donald Trump qui l'a fait voler en éclats, et donc c'est remplacé aujourd'hui par des rapports de force. Les États-Unis exercent ces rapports de force, pas toujours du reste avec succès. Ben, on le voit aujourd'hui en Iran. On a exercé des rapports de force, et au fond, qu'est-ce qui se passe? On rouvre le détroit d'Hormuz, mais on va être obligé de payer. On a quand même aujourd'hui, détruit à peu près 0,8 à 0,9% de la croissance mondiale, ce qui crée des répercussions dramatiques dans un certain nombre de pays, y compris les pays en voie de développement, et en particulier l'Afrique. On a, nous, en Europe, une croissance qui a été estimée à 1,2%, qui va être au mieux à 0,8%. Donc, on paye tout ça. Et nos,
et ça, et, c'est vraiment
et nos compatriotes,
coup
bien
de
sûr,
ce qu'il s'est joué,
bien sûr,
au niveau européen, au niveau français aussi,
hein,
parce
sûr,
que notre croissance
français
a été revue à la baisse.
Si on est à 0,6, 0,7, ce sera quand même le maximum, le bout du monde, alors qu'on était plutôt à 0,9, voire 1%. Donc évidemment, et puis tous ceux qui nous écoutent ce matin, l'ont payé aussi, parce qu'on a vu quand même les conséquences directes à la pompe. Donc alors voilà, ça va baisser. Ça baissera du reste moins rapidement qu'on ne le souhaiterait. On va prendre du temps maintenant, parce qu'il va falloir libérer le détroit d'Hormuz, ça va prendre un peu de temps. Les bateaux, ils sont pas là, ils vont pas sortir comme ça du jour au lendemain. Reconstituer les stocks, ça va prendre du temps. Donc il faut pas s'imaginer que dès la semaine prochaine, on va repasser à 1,65 le prix du
Thierry Breton, vous avez été commissaire européen, vous avez été ministre de l'économie française, vous l'avez dit, on va payer à Hormuz. C'est en tout cas ce qui est en train de se dessiner dans cet accord. Alors ça s'appellera pas un péage, ça s'appellera un service. Mais enfin globalement, on a quand même l'impression que là-dessus, au moment où on se parle en tout cas, Donald Trump s'est plutôt couché. La France dit on n'acceptera pas ça. Mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement?
Eh bien, et ce qui va se passer vraisemblablement, alors encore une fois, on va voir, parce que vous l'avez rappelé, ça tient sur une page, on n'a pas encore signé, on va signer maintenant ensuite vendredi, c'est, qu'est-ce qu'on va signer à Pauline de Malherbe? Ce qu'on appelle en anglais un Memorandum of Understanding, c'est-à-dire un accord cadre. Donc c'est pas encore un accord, hein, c'est un accord cadre. C'est maintenant, on va cadrer les discussions, on va dire voilà exactement ce sur quoi il faut s'entendre. Et on n'a pas cette feuille, on n'a pas cet accord cadre encore, c'est-à-dire les éléments de la négociation. Parce qu'évidemment, et Donald Trump va pas les donner pendant le G7, parce qu'il veut encore une fois garder le flou, parce que quand on va rentrer dans le détail, évidemment, ce sera pas glorieux. Donc on va garder ce flou, on va rentrer évidemment dans ces négociations après le G7, on va voir ce qui se passe vendredi à Genève, on espère tous évidemment.
Donc pour l'instant, on a la version iranienne, on n'a pas vraiment la version américaine. Gigi Benz dit qu'il pourrait éventuellement, dans les heures qui viennent, commencer à en dévoiler le contenu. Enfin, on sent que c'est encore très flou.
Mais bien sûr, et pour la raison que je viens d'indiquer. Mais derrière, on voit bien que ce qui va se passer, c'est une recomposition, y compris du Proche-Orient. Et ça, c'est vraiment en route. Il y a évidemment, un grand perdant à l'heure où nous parlons. À l'heure où nous parlons, c'est évidemment Israël. Israël, et on voit du reste comment aujourd'hui Donald Trump traite Benjamin Netanyahou. Hein, il emploie des mots
très méprisants.
Très méprisant. Et par parenthèse, celui qui a ses grâces, c'est le nouvel Ayatollah. Mmh. Un homme bien, ils sont pragmatiques, intelligents. Vous voyez, ça bouge, ça évolue.
C'est inouï. Enfin, je vois dans votre regard que vous êtes, j'allais presque dire affligé.
Non, c'est la réalité du monde dans lequel nous sommes. Voilà, il faut le prendre pour ce que c'est. Mais qu'est-ce que ça veut dire derrière, Apolline de Malherbe? La géographie, elle reste. Donc on va recomposer évidemment le Proche-Orient. Et ça va être comment? Le Proche et Moyen-Orient vont être complètement recomposés. Évidemment, Israël sera un acteur majeur, il va rester, par définition, bien entendu. L'Iran qui est renforcé, il va en sortir renforcé, bien sûr, ça va prendre du temps, parce qu'il y a eu beaucoup de destruction. Ils évaluent ça à 280 milliards de dollars, on verra bien. Mais et donc, oui, ils vont essayer de se faire refinancer la reconstruction. Et puis, des nouveaux acteurs, des acteurs qui sont là, mais qui vont jouer un rôle important, qui ont déjà joué un rôle important. On pense évidemment à la Turquie. Donc, vous avez déjà ces trois acteurs qui vont reconfigurer quelque part la région et les rapports de force. Vous avez vu que je n'ai ni cité les États-Unis, ni cité l'Europe. Donc, à charge pour nous de revenir très vite. Et puis, vous avez aussi le Pakistan, bien entendu, et derrière, la Chine, qui est là et qui a observé de façon clinique ce qui se passait, qui a continué à soutenir l'Iran, notamment dans sa nécessité pour la propulsion de ses missiles balistiques dont vous avez constaté comme moi qu'ils sont sortis de l'accord, alors que ces missiles, ils peuvent toucher l'Europe, donc on est quand même concerné. Donc voilà, ça c'est la recomposition du monde qui est en route aujourd'hui.
Et une recomposition qui, quand je regarde effectivement le dessin que vous en faites, met l'Europe quand même à la marge. Il faut que nous arrivions à reconquérir. Est-ce que la symbolique, est-ce que le fait que, par exemple, demain soir, on garde Donald Trump sur le sol pour un dîner à Versailles, est-ce que c'est important? Est-ce que ça peut jouer? Ou est-ce qu'on n'est pas en train de se faire avoir par Donald Trump?
Alors j'entends ceux qui raillent et moquent cette soirée demain. Je ne suis pas de ceux-là. Je pense que c'est très important. Personne n'est dupe sur ce qui se passe désormais aux États-Unis. Personne n'est dupe sur ces nouveaux rapports de puissance.
Pour autant,
il faut évidemment que on en tienne compte, et donc il faut continuer à parler, il faut s'adapter évidemment à ces nouveaux interlocuteurs, et j'allais dire épouser leur grammaire, mais pour autant il faut qu'on en tire les conclusions. Ça veut dire que pour nous, l'Europe puissance, c'est maintenant une urgence absolue. Non pas encore une fois parce que nous sommes une puissance ou nous aspirons à être une puissance hégémonique, mais pour peser dans ces rapports de force dont je rappelais tout à l'heure qu'ils vont façonner le monde qui vient.
Alors moi je veux bien qu'on essaye de peser dans ces rapports de force, mais enfin la réalité des derniers jours, avec notamment ce qui s'est passé sur l'intelligence artificielle, Donald Trump qui a littéralement coupé l'accès aux plus aboutis des outils de Claude, Fable 5, qui est donc censé être l'un des meilleurs moteurs d'intelligence artificielle au monde. Et vendredi soir, il a décidé, pour des raisons de sécurité intérieure, de couper cet accès à tout le reste du monde, européen compris. Nous sommes dépendants. C'est-à-dire que s'il décide ensuite de couper d'autres choses, s'il décide de couper nos iPhones, nos Outlook, Google, il peut le faire d'un coup, en fait. Vraiment, on a l'impression qu'il a l'interrupteur.
Appeler de Malherbe. Il peut le faire d'un coup, pour peu que ça n'ait pas de répercussions économiques. Alors aujourd'hui, couper nos iPhones, couper Outlook, etc., ça aurait beaucoup trop d'implications économiques par rapport aux
fournisseurs. Il a besoin de nous comme clients.
Mais bien entendu, donc il ne le fera jamais. En revanche, vous avez parfaitement raison, ce qui s'est passé sur Anthropic est absolument systémique. Mais je voudrais le relier à autre chose. Pour lui, ce qui a été très important, la semaine dernière, c'était deux choses, me semble-t-il. La première, c'était d'abord préparer son anniversaire. Parce que c'était finalement, je réunis le peuple maga autour de moi. Je rassemble la famille. Il l'a fait notamment avec...
À la Maison Blanche, avec la grande soirée de MMA et de motocross.
Et puis le deuxième, c'était de réussir la plus grande mise en bourse jamais réalisée.
Elon Musk.
Celle d'Elon Musk, qui est totalement... Alors, il y a une base de réalité, évidemment. Mais les analystes, je m'abrite derrière les analystes, sur la valorisation de 1800 milliards, excusez du peu, c'est-à-dire la moitié du PIB français, pour une entreprise qui fait 18 milliards de chiffre d'affaires, c'est-à-dire 100 fois une valorisation son chiffre d'affaires, c'était du jamais vu. Il fallait qu'il la réussisse. Il fallait qu'il la réussisse. Les analystes disent que ça valait 700 milliards ou 750 milliards. Bon, il y a donc 1000 milliards uniquement sur la marque Elon Musk, ce qui est du jamais vu dans l'histoire.
J'ai envie de dire, c'est la liberté de ceux qui décident d'y aller.
Et pourquoi je dis il fallait que ça réussisse? Parce que précisément, si jamais ça ratait, alors c'était précisément la bulle intelligence artificielle qui risquait d'exploser et qui aurait eu des répercussions massives sur le cours.
Mais ce que vous êtes en train de nous dire, c'est une bulle.
Mais bien entendu, quand je vous dis qu'il y a 1000 milliards, c'est pas moi qui le dis, c'est les analystes. Donc il y a 1000 milliards de plus qu'on sait pas expliquer. Il n'en demeure pas moins que lorsqu'on fait une introduction en bourse où le Nasdaq est à moins 2%, c'était le cas jeudi matin, parce qu'il avait déclaré, sous les choses vont vite, Apolline de Malherbe, jeudi matin, il relançait la guerre, vous en souvenez, en Iran. Et donc, les bourses plongeaient. Ce que je veux vous dire, c'est que dans le milieu de l'après-midi, on a annoncé que enfin on allait avoir un accord, les bourses ont remonté. Ce que je veux dire, c'est que c'était très important et pour les États-Unis et pour lui que précisément
dans la recomposition de l'intelligence artificielle. Est-ce que ça veut dire qu'au fond vous êtes en train de laisser entendre que c'est une forme de super délit d'initié, c'est-à-dire que c'est une sorte de d'amitié faite de tripoutage.
Je dis que lorsque Donald Trump
tripatouillage, c'est le mot que je cherchais.
Je vais être très précis sur ce point. Lorsque Donald Trump 39 fois ou 40 fois depuis le début des hostilités avec l'Iran va dire qu'on y arrive, on n'y est pas arrivé, on y arrive, on ne veut pas arriver, il s'adresse aussi au marché. Il ne faut jamais qu'on l'oublie. Car ses propos pèsent dans un sens, et on l'a vu, sur les marchés. Et on l'a vu,
Est-ce que ça veut dire, Thierry Breton, c'est quand même très important ce que vous êtes en train de dire, est-ce que ça veut dire, Thierry Breton, que vous considérez qu'au fond, ce qu'on vient de se dire depuis le début de cet entretien, la question d'un accord, le timing choisi, est en réalité avec une arrière-pensée économique et en particulier le momentum, le moment de la mise en bourse d'Elon Musk.
Je suis de nouveau très précis. Cette mise en bourse est un élément absolument majeur dans l'histoire. Il fallait pas qu'elle rate. Je vais être très précis dans ce que je vous dis. Il y a évidemment la lecture géopolitique, on vient de le faire au cours de cet entretien. Il y a la lecture économique, mais il y a aussi toujours pour Donald Trump la logique marché. Du reste, les premiers propos qu'il va tenir, c'est que les navires recommencent à circuler, que le pétrole recommence à circuler à flot, et les marchés repartent en avant. Donc pour lui, ce que je veux dire, c'est que ses actions, toutes ses actions, sont à lire désormais avec cette vision multicritère. La dernière d'entre elles n'est pas la moins importante. C'est tout ce que je dis, parce qu'encore une fois, c'est le financement des États-Unis et de la tech américaine. Et c'est pour répondre à votre question très légitime sur Anthropic.
Sur l'intelligence artificielle.
Sur Anthropic, évidemment, on sait qu'il faut quoi? On sait qu'il faut des talents. Bah, désormais, avec Anthropic, on vient de dire, il dit que les talents non américains n'auront pas accès au développement. Bah, charge pour nous de réinviter ces talents. Il y a beaucoup d'Européens qui ont des visas H1B qui sont aux États-Unis, qui peuvent plus donc désormais travailler dans l'intelligence artificielle.
Récupérons-les.
Il faut leur proposer, évidemment, de les attirer, de leur proposer.
Est-ce que vous diriez, comme Raphaël Glucksmann, qui a dit, notre ennemi a un visage, il a un nom, il s'appelle Elon Musk, il s'appelle Sam Altman. Est-ce que vous diriez ces formules?
C'est pas une question d'ennemi. C'est aujourd'hui une question, encore une fois, c'est pour ça que je voulais représenter dans cette reconfiguration du monde. Les éléments qui pèsent, c'est évidemment la capacité à attirer des financements majeurs du monde entier pour financer l'incertain. L'IA, c'est du certain, mais c'est aussi de l'incertain. Donc, il ne fallait pas rater ça. Il faut pas rater ça et on va continuer dans cette
position-là. Vous avez vu que Donald Trump a également annoncé lundi que c'est le New York Post qui l'assure, que les États-Unis n'allaient pas avoir d'autre choix que d'imposer des droits de douane de 100% sur le vin français si Paris ne supprimait pas sa taxe numérique sur les géants américains de la technologie.
Pourquoi Paris? Il y a 8 pays européens aujourd'hui, qui ont mis une taxe, parce que c'est légitime, encore une fois. On offre notre marché intérieur à ceux qui veulent y pénétrer. Il faut qu'ils respectent nos règles, par rapport à la première question.
Mais vous y croyez, ou est-ce que c'est une menace?
Ça fait partie des menaces de déstabilisation. Il y a 8 pays, encore une fois, européens, qui ont mis ces taxes. Donc, j'imagine que si jamais il veut qu'elle soit supprimée, je sais pas pourquoi, du reste, parce que, encore une fois, c'est vraiment l'objet de notre démocratie, qui est souveraine, d'avoir décidé ceci. C'est pas contre quelqu'un. C'est vraiment uniquement pour pouvoir bénéficier de notre marché intérieur. Il va falloir sans doute le faire aussi à l'Italie, il va falloir le faire au Danemark, il va falloir le faire à l'Autriche, à 8
mais
pays,
pour ça,
à l'Espagne.
Qu'on soit solidaires, nous,
oui,
entre
mais,
nous.
Oui, mais je rappelle qu'on a accepté 15% de droits de douane de façon unilatérale pour aller vendre des produits aux États-Unis contre zéro désormais pour les produits américains en Europe. La contrepartie, c'était la stabilité. Alors, il faut que la Commission européenne fasse respecter la stabilité, parce qu'encore une fois, c'est l'engagement qui a été pris.
Merci beaucoup, Thierry Breton, d'avoir répondu à mes questions. Une dernière, vous êtes à la fois français et sénégalais. Je crois que vous avez reçu la nationalité sénégalaise. À 21h ce soir, vous serez partagé devant le match.
Je vais pas regarder.
Vous regarderez pas, du coup. Thierry Breton, ancien commissaire européen et ancien ministre de l'économie, merci d'avoir répondu à mes questions sur RMC BFM TV.
Merci Apolline, vous restez bien sur RMC. Dans le sillage du scandale du périscolaire et de l'affaire Liana, les parents ont-ils peur d'envoyer leurs enfants en colonie de vacances? Le choix de la rédaction à suivre, et puis le premier match des Bleus à la Coupe du Monde, le Mondial de Virginie avant 9h.
RMC, Apolline Matin.
Vous êtes sur RMC, le Mondial de Virginie. C'est avec vous, Virginie Fulpin, bonjour.
Bonjour.
Dans un instant avec vous, les toutes dernières infos sur le Mondial, avec le premier match des Bleus ce soir, bien sûr. Mais avant cela, le choix de la rédaction avec vous, Louise Salé. Bonjour, Louise.
Bonjour, Mathieu.
Vous êtes reporter au service Société d'RMC. Et après l'affaire Liana et les scandales d'abus sexuels dans le périscolaire, les parents hésitent de plus en plus à envoyer leurs enfants en colonie de vacances cet été. C'est ce que vous avez constaté, Louise.
Oui, absolument. Certains parents renoncent carrément à ces colonies de vacances. Pour RMC, Lucas Laubert a rencontré Karim, dont la fille aînée a 8 ans. Elle a déjà participé à un séjour l'an dernier, mais n'y retournera sans doute pas cet été.
Ah, c'est pas facile, hein. On y pense, on appréhende. Si je peux éviter, j'éviterai. C'est compliqué de savoir à qui on a affaire. Et avec toutes ces histoires, ça nous fait peur de plus en plus, vous voyez.
D'autres se disent très vigilants sur l'organisation des séjours. Ils s'interrogent sur la façon dont les enfants sont encadrés.
Je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément habilités, ou en tout cas qui n'ont pas les façons de faire avec des petits-enfants.
Forcément, une colonie, dans ce contexte, elle doit mettre en place une politique. Elle doit justifier que les accidents ne vont pas arriver. Et je pensais au taux d'encadrement. C'est important de se dire qu'il y a toujours plusieurs adultes autour des enfants, et plutôt des femmes, on espère.
Et ces inquiétudes, elles n'existaient pas avant, Louise?
Alors, c'est pas nouveau que les enfants craignent pour la sécurité de leur enfant. L'Observatoire des vacances des enfants a publié hier un baromètre sur les séjours collectifs pour mineurs. Cette inquiétude sur la sécurité est citée parmi les principaux motifs de renoncement à une colonie en 2025 pour un quart des parents interrogés. C'est la même proportion qu'en 2023, donc ça reste assez stable. Mais pour l'été 2026, les mairies qui organisent elles aussi des colos perçoivent une inquiétude plus marquée. Antoine Jouenne copréside la commission éducation de l'Association des maires de France.
Depuis quelques mois, on constate effectivement des questions qui sont plus nombreuses qu'avant et qui sont aussi plus précises, avec besoin de comprendre précisément comment sont recrutés aujourd'hui les animateurs. Ça peut être à la fois des questions lors des réunions de préparation pour ces colonies, mais ça peut aussi se manifester par des mails, par des courriers.
Les communes expliquent alors aux parents que le casier judiciaire de chaque animateur est examiné. Une plateforme de l'État permet aussi de vérifier si cette personne n'a pas fait l'objet de signalements dans d'autres structures, même s'il n'y a pas eu de plainte ou d'enquête judiciaire.
Et du côté des organismes privés de colonies de vacances, est-ce qu'ils ressentent eux aussi, Louise, l'inquiétude des parents?
Ils constatent une baisse des inscriptions cet été, ça c'est certain, de l'ordre de 5% environ par rapport à l'an dernier pour les structures que j'ai interrogées. Mais pour eux, la raison est économique, parce que cette année, des aides de l'État pour financer des séjours ont été drastiquement réduites. Agnès Batiani dirige une fédération d'associations qui organise des colonies de vacances.
C'est pas la sécurité qui les freine, c'est vraiment les questions financières. Nous, on a quand même une culture de la formation de nos animateurs. Il y a tout un protocole de sécurité qui est mis en place depuis des années. C'est pas dans le périscolaire, c'est dans les colos, mais dans les colos, c'est extrêmement réglementé.
Les inspections des colonies de vacances sont en effet nombreuses. Le nombre minimum d'encadrants qui disposent d'un brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur est scruté de très près. Et ce brevet contient d'ailleurs depuis peu un module obligatoire sur le traitement des violences sexuelles.
Merci Louis Salé, c'était le choix de la rédaction. À retrouver sur l'application RMC.
RMC, le Mondial de Virginie.
Et Virginie, vous êtes toujours avec nous. C'est ce soir que les Bleus commencent leur Coupe du Monde. France-Sénégal, 21h, en direct, en intégralité sur RMC. Ça commence bien avant, d'ailleurs, oui. Dès 15h sur RMC, disons-le, bien sûr. L'équipe de France qui reçoit beaucoup de soutien à New York.
Ouais, les supporters français sont réunis en masse à Times Square. New York ne dort jamais, les fans des Bleus non plus. L'équipe de France a aussi reçu un soutien directement dans son hôtel. Paul Pogba est passé voir ses anciens coéquipiers pour les encourager, ce qui est plutôt sympa.
Didier Deschamps cherche à enlever toute pression aux Bleus.
On lui fait pas, ça fait 14 ans qu'il est là, il sait comment s'y prendre en conférence de presse la veille de match. L'équipe de France est-elle favorite de la Coupe du Monde? Mais vous n'y pensez pas, la grande favorite c'est l'Espagne. Et hop, on refile la patate chaude aux Espagnols. Derrière, ils ont fait d'ailleurs un piteux match nul 0-0 contre le Cap-Vert. Oui, et puis de toute façon, un premier match, ça veut rien dire. Je paraphrase encore Didier Deschamps qui se réfère à la défaite initiale de l'Argentine contre l'Arabie Saoudite il y a 4 ans. Et puis non, France-Sénégal, ça n'est pas une revanche de 2002 quand les Sénégalais avaient battu la France 1-0 à Séoul, n'importe quoi, les joueurs sur le terrain ce soir étaient ou panés ou ils apprenaient à marcher, donc c'est bon, maintenant la pression, on l'évacue.
Hervé Renard qui remplace Sabri Lamouchi à la tête de la sélection tunisienne.
Il va monter dans l'avion ce matin, direction Monterrey au Mexique, et ce soir, Hervé Renard va diriger son premier entraînement après un imbroglio de quelques heures. La fédération tunisienne a finalement officialisé le limogeage de Sabri Lamouchi. La déroute 5-1 contre la Suède n'est pas passée. Hervé Renard va jouer les pompiers pour la Coupe du Monde. Il a déjà disputé 4 mondiaux avec 4 équipes différentes. 2018 avec le Maroc, 2022 avec l'Arabie Saoudite et 2024 avec l'équipe de France féminine.
Et puis il y a des supporters qui vont mériter de voir Argentine-Algérie la nuit prochaine.
Trois Argentins partis de chez eux près de Buenos Aires le 16 août 2025. Ils ont parcouru 17 000 km à vélo pour enfin arriver à Kansas City. Leur rêve, c'est de rencontrer Lionel Messi et de voir l'Argentine gagner. Dans la série, on est prêt à tout pour son équipe. Il y a un Belge. Lui, il est parti de Bruxelles au volant de sa BMW de 1983 pour rejoindre Seattle. Bon, alors, entre-temps, il a pris un porte-conteneur, hein, évidemment, et il a assisté au premier match de la Belgique à Seattle. Donc.
On va terminer avec l'Écosse, qui a un supporter pas très discret.
Vous le reconnaissez, Rod Stewart. Je ne sais pas si le chanteur est sexy, c'est ce qu'il demande, mais je sais qu'il n'est pas discret. Effectivement, ce week-end, il a annulé un concert prévu à Los Angeles pour des raisons médicales. Et 24 heures plus tard, on l'a vu s'époumoner dans les tribunes lors du match de l'Écosse contre Haïti à Boston. Ses fans n'ont pas franchement apprécié. Bon, c'est pas le premier à se faire porter pâle pour un match de Coupe du Monde, hein, mais sauf que là, bah, ça se voit un peu plus.
Bon, on vérifiera qui est là demain matin, hein, sur RMC. Merci Virginie, le match des Bleus, c'est ce soir. À suivre en direct en intégralité sur RMC avec nos envoyés spéciaux à New York où le match se déroule. À suivre aussi avec une Dream Team de champions du monde, hein, Emmanuel Petit, Samuel Umtiti. Avant match, dès 18h, avec Jérôme Rotten, entouré de la légende Jean-Michel Larquet et de l'ancien international sénégalais, c'est Souleymane Diawara. Débrief dans l'afterfoot jusqu'à 2h du mat. RMC Radio officielle de la Coupe du Monde. Vous ne manquez rien avec nous. Dans un tout petit instant, les GG. Quel est le programme, Alain Marchal? Bonjour.
Bonjour à tous. Nous reparlerons de ce restaurateur du Gers, vous savez, qui a mis la vidéo, qui a publié la vidéo de son cambrioleur. On reparlera aussi du public qui aujourd'hui s'informe davantage sur les réseaux sociaux qu'avec les chaînes de télévision ou les médias traditionnels. Est-ce que c'est une évolution contre laquelle il faut lutter ou pas? Ou c'est le sens de l'histoire, tout simplement? Et puis on reparlera aussi de Coluche, 40 ans après sa mort. Coluche reste l'un des humoristes préférés des Français, mais est-ce que Coluche pourra encore faire tous ses sketchs aujourd'hui? Vous venez réagir avec nous au 32-16.